Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle émission du SAV de la F1. Cette semaine, c'est un mag et on va revenir sur toute l'actualité de votre discipline préférée.
Pas toutes.
Oui, alors cette semaine, on a décidé...
C'est une émission allégée.
C'est... Parce que la semaine dernière, il y a deux semaines, on a dit oui, on a marre, on parle tout le temps de Pirelli et tout ça. Donc cette semaine, c'est du 0% Pirelli.
Hey,
c'est la dernière fois que vous m'entendez dire ce nom. Maintenant, on remplacera par un bip. Si vous le dites, on mettra un bip au montage. Voire mieux, vous ne le dites pas et vous dites un bip à la place.
Ah.
Ce qui nous économisera du montage.
Et donc, Shinji, nous ne sommes pas seuls.
Oui, nous sommes trois cette semaine, oui.
Oui, parce qu'il y a des grosses feignasses.
Mais non, mais tu sais bien qu'il y a ces choses, tu sais, ce truc chiant-là. Tu sais, qui fait qu'on travaille, qu'on a des études, que parfois on n'a pas... Comment ça s'appelle déjà ? La vie, tu sais.
Ah oui.
Voilà, qui fait que parfois on peut pas se libérer d'un truc. Donc, bonsoir Dino et bonsoir Ben.
Bonsoir. Voilà. Ah, vous avez quand même failli être tout seul. Hein. Ça s'est joué à pas grand-chose.
Vous avez les trois qui n'ont pas de vie.
Et vous avez failli ne pas avoir celui qui n'avait plus de courant.
Oui. Ah, on aurait fini à deux. Ça aurait été le bon vieux temps, Shinji.
Ah, si vous voulez, je peux partir. Hein. Y a pas de...
Non, reste.
Reste, oui.
Les gens vont imaginer des trucs.
Alors, messieurs, comme d'habitude, on va commencer l'émission avec le quiz.
Oui.
Et vous avez de la chance parce que j'ai une question pour le quiz. Parce que Dino devait en poser une, puis il a pas eu le temps, hein. Et Ben t'en a pas fait parce que de toute façon, depuis le début de la saison, il y a que moi et Dino qui faisons des questions pour le quiz.
Ce qui est rigolo, c'est que depuis tout à l'heure, depuis que t'as parlé du quiz, j'ai la musique des Dents de la Mer dans la tête. C'est la musique du générique. Et je me dis, celui-là, faut que je le gagne. N'est-ce pas,
de toute façon, si je gagne, je vais ou vous mettre un ta gueule à Dino qui va m'en vouloir encore plus.
Oui.
Ou je vais devoir en mettre un à Shinji et Dino va encore m'en vouloir plus.
Et je vais t'en vouloir encore plus.
Et si je perds, je me ramasse à ta gueule. Donc, je suis dans la merde, en fait.
Moi, tu peux mettre un ta gueule, je t'en voudrais pas plus. Si tu peux mettre un ta gueule à Shinji, ça n'aggravera pas ton cas. T'as déjà atteint l'extrême. T'as déjà mis une fois ta gueule à Shinji.
Je crois qu'il arrive, je vais passer une mauvaise émission, moi, donc.
Pour un truc qu'il ne méritait pas, en plus.
Injustice. J'écris ton nom.
Le service après-vente de la F1 vous présente le duel animateur contre chroniqueur. Mais cette fois, c'est chacun pour sa gueule.
Alors messieurs, cette semaine, un chiffre. On est très originaux quand même. Hein. Ce chiffre, c'est un pourcentage. Je les aide par rapport, parce que vous avez vu quand même que dans les émissions normales, les éphémérides, parfois, ils ont du mal. Hein. Ce chiffre, c'est 10,71%.
C'est lié à la F1, tu nous confirmes ?
Oui, c'est lié à la F1.
Un pourcentage de victoire ?
Non.
C'est un pourcentage par rapport à des résultats ?
Non.
C'est un pourcentage par rapport à un nombre de courses ?
Non.
C'est lié à au palmarès de la F1.
Pas au palmarès.
C'est lié à une actualité récente ou
Ah oui.
C'est récent.
Le pourcentage de dépassement réalisé par Alonso ou Ferrari.
Non.
Par Lotus, Raikkonen.
Non, pas de dépassement.
C'est la part d'une distance.
C'est pas la part d'une distance.
C'est la part d'une durée.
Pas d'une durée.
La part d'un nombre de tours.
Pas d'un nombre de tours.
Ça concerne une écurie en particulier ou
Pas en particulier, pas une équipe en particulier.
Ça concerne un pilote en particulier alors Tu vas me dire,
ça concerne les pilotes, mais pas en particulier.
Ah, les pilotes en général.
Les pilotes, oui.
C'est la part d'une somme. D'une somme d'argent.
Non, pas d'une somme d'argent. Pour les équipes, je pourrais vous dire que ça concerne Ferrari, Force India, Williams, Barr, Toro Rosso, Lotus, Toyota, Larousse.
Oula, c'est historique.
Pas spécialement.
Ah bah Barr.
Parce que Barr, Et chez les pilotes, ça concernerait qui? Histoire qu'on gagne du temps. Pendant ce temps-là, on réfléchit.
Ça ne concerne pas un pilote.
Est-ce qu'il y a des pilotes qui sont pas concernés?
Non. Ah oui, il y a plein de pilotes qui sont pas concernés.
Mais maintenant, les pilotes actuels,
quand tu nous dis que ça ne concerne pas un pilote, c'est que ça concerne tous les pilotes ou
Ça concerne un certain nombre de pilotes.
Mais pas un.
Ah non.
D'accord, ok. C'est temps que je comprenne le pas un.
Donc ça concerne 10,2% des pilotes, c'est ça?
Oui.
Ils ont roulé pour une équipe?
Non.
Ils ont gagné.
Ils ont gagné un grand prix.
Précis. c'est 18 pilotes sur 168 pilotes. Et 168, c'est une très grosse aide.
C'est des pilotes qui ont gagné avec leur écurie nationale.
Non. Il y a même un paquet qui ont pas gagné.
Dans 168. Donc c'est pas les pilotes vainqueurs, ça, il y en a beaucoup moins.
D'ailleurs, que je regarde un truc, oui, dans, parmi les 18, il y en a pas beaucoup qui ont gagné une course en F1.
Mais ils ont gagné une course d'une autre discipline?
Ah, au Mans?
Ça concerne le Mans.
Bah, ceux, les pilotes qui ont gagné au Mans, qui ont participé au Mans.
Non, c'est...
168 pilotes.
Oui.
J'allais dire le nombre de pilotes de F1 qui ont gagné au Mans, mais...
Alors, c'est un certain nombre de pilotes de F1...
Qui ont gagné le jour des 24 heures du Mans.
Qui ont pas gagné au Mans. C'est plus, beaucoup plus simple que ça. C'est de l'actualité.
Bah, qui seront aux 24 heures du Mans. Qui sont engagés aux 24 heures du Mans. Cette année.
Voilà.
Il y a 18 pilotes. Oh
voilà. Il y a 18 pilotes. Il y a 10, parmi les, c'est pour ça que 168 c'était une aide, parce que c'est 56 fois 3.
Oui.
Voilà. Parce qu'il y a 56 équipages. Et donc, parmi les 168 pilotes qui concourront au Mans, ce week-end, eh bien, il y a 18 pilotes qui ont au moins participé à un Grand Prix de Formule 1. Alors, vous savez dans quelle catégorie ils sont les plus représentés?
Bah, en GT.
Ah, non.
En LMP2?
Ah, non.
En
LMP1.
Ah, vache.
9 pilotes. Parce qu'on va retrouver Alan McNish, Marc Gené, Luca Di Grassi, Alexander Wurz, Kazuki Nakajima, Anthony Davidson, Stéphane Sarrazin, Sébastien Buemi, Nick Heidfeld. Ils sont deux.
C'est pas du LMP2, Nick Heidfeld?
Non, c'est du LMP1.
Du LMP1.
En LMP2, d'accord, il y aura Shinji Nakano et Karun Chandhok. En GT Pro, Gian Maria Bruni, Fisichella, Olivier Beretta. Certains, ils n'ont pas fait beaucoup de Grand Prix. Ah, hein. Kami Kobayashi, Yann Magnussen, Pedro Lamy et Bruno Senna. Et par contre, en GT AM, il y en a zéro. Ils sont donc 18 sur 168. Ça fait 10,71%. Et je ne compte pas les pilotes qui ont fait des essais ou des tests en Formule 1. Ils sont environ une douzaine. Et ils sont notamment en LMP2, ce qu'on trouve Yann Charouz, James Rossiter, Bertrand Baguette, Oliver Turvey, Alexander Rossi, Opintung ou Nicolas Mination.
Il y en a même du coup qui ont fait des essais récemment, parce que Rossi...
Rossi
par exemple, ouais.
Oui, d'ailleurs, au Canada, il a roulé au Canada, Rossi, hein, si je dis pas de bêtises.
Pour les essais. Le matin.
Et après, il s'envolait directement pour aller faire des essais au Mans. Hein.
On trouve aussi Romain Dumas, qui a fait des essais, je crois, ou peut-être juste des tests, qui sera en GT Pro. Emmanuel Collard, qui est le seul représentant, entre guillemets, GT AM.
Il est pas dans une équipe Audi?
Non, il est chez Porsche en GT Pro.
Ah oui, d'accord.
Oh, et puis alors en LMP1, il y a Lotterer, que j'ai appris qu'il avait fait des tests, je crois, pour Bar. Tom Christensen, c'est pareil, notamment il avait fait des tests, mais alors pour les pneus. Nicolas Prost, qui a roulé quand même.
Ça existe, ça, des tests pour les pneus, il s'est dit. C'est un mythe.
Ou Neil Yanni. Hein. Donc en tout, ça fait quand même une trentaine de pilotes, hein, qui ont roulé au moins une fois dans une Formule 1. Donc voilà, c'était pour coller un peu à l'actualité. Puis comme en plus j'avais fait un éphéméré sur les 24 heures du Mans, c'était pas mal. Faire une deuxième partie.
Ah, l'époque où les éphémérides avaient du sens.
Oh.
Ah, voilà, c'est cool quand tu nous tiens.
Voilà, trentaine de pilotes et un acteur, bien évidemment. Ouais. Parce que c'est ce que les médias vont retenir.
Patrick Dempsey. Mais c'est un vrai pilote. Enfin,
mais
un...
le pire, oui, c'est
il
qu'il
a
faut
une
le
vraie
dire.
Curie, c'est un vrai fondu, quoi.
Il fait des courses notamment aux États-Unis, oui, c'est pas...
Il a, alors parce que je fais mon coming out. attention, c'est juste un coming out télévisuel. Hein. Je suis la série Grey's Anatomy, voilà, j'y peux rien, c'est plus fort que moi. Plusieurs fois, il a été rattrapé par la manche par les producteurs, alors qu'il voulait arrêter la série pour se consacrer vraiment à la compétition et faire des films de temps en temps. Parce que faire une série, ça prend énormément de temps et trop de temps pour lui.
Ouais, puis ça fait plusieurs années qu'il participe au Mans. Hein,
c'est sa deuxième ou troisième fois, je crois, au moins.
Ouais, et puis il fait des courses aux États-Unis. Enfin, voilà, il est super actif, quoi.
Un vrai gentleman driver.
C'est le nouveau...
Paul Newman.
Voilà. Paul Newman et Patrick Dempsey. La fiche de film qu'on verra jamais.
Ah non.
Ah peut-être. Je connais pas ce qui se produit au paradis. Ça se trouve, il y a un projet de film. Alors, je t'ai dit, j'en profite, comme t'as été un peu rapide.
Oui, voilà.
Pour vous poser une petite question que j'avais envisagée, et qui serait la suivante. De quoi peut s'enorgueillir Warwick?
Il a reçu un prix ?
Non.
Il a participé à quelque chose ?
Non.
Le pilote, l'ancien pilote qui a été le plus souvent nommé commissaire.
Non.
Prix. C'est vrai qu'il l'a souvent été.
C'est vrai qu'il ouais, est souvent, donc...
S'il y a quelque chose qu'il a fait pour la F1 ?
Non.
Non ? S'il y a une autre activité annexe qu'il fait ?
Non.
C'est un rapport avec la Formule 1.
Ah oui, c'est un rapport avec la Formule 1.
Il a racheté la FOM.
Non.
Il avait eu l'idée, il s'est fait piquer par Bernie.
Non, non plus. Pourtant... Non, mais en fait, parce que vous êtes parti sur une mauvaise piste, en fait.
Et c'est quelque chose de récent ou
Ah, bah, c'est de la semaine dernière.
La semaine dernière. Pire, c'est que je crois que j'ai vu l'info là-dessus, mais j'ai pas...
S'enorgueillir. Je sens que ce mot est important. Titre.
Non, c'est pas le mot le plus important de la phrase. De quoi peut s'enorgueillir Warwick ?
Ah bah merde.
Il a reçu... On l'a peut-être déjà demandé, mais il a reçu un prix ou quelque chose.
Non.
Merde, enorgueillir, c'est pas le mot le plus important.
Non.
Parce qu'il reste plus que de quoi, Warwick, si tu veux. Donc...
C'est un gros indice que je t'ai donné.
C'est quelque chose que lui, il a fait ?
Non. J'ai même envie de dire, il a strictement aucun rapport.
Un fils, peut-être ?
Non plus. Je crois que même Warwick lui-même n'est pas au courant.
N'est pas au courant ?
Enfin, Warwick est au courant, mais pas Derek.
Attends, ça concerne Derek Warwick ?
Non.
D'accord, c'est bien, c'était ça le truc. Donc c'est un autre Warwick ?
Non.
Attends, c'est pas Derek Warwick, mais c'est pas lui quand même.
Voilà, t'as tout compris.
Et c'est pas quelqu'un de sa famille.
Non.
Nous profitons de cette question quiz pour rappeler à nos auditeurs que la drogue, c'est mal.
C'est qu'il a été cloné.
Il a quoi ?
Il a été cloné ?
Non.
Parce que si c'est lui et que c'est pas lui en même temps...
Ah non mais c'est pas Warwick.
Il y a une statue de cire quelque part...
Tu m'as demandé si c'était quelqu'un d'autre qui s'appelait Warwick. Non.
Ah, d'accord.
Pour tout te dire, ce n'est pas une personne.
Roscoe a un petit frère.
Non. Je rajouterais d'ailleurs que ce n'est même pas un être vivant.
C'était bonne cette question.
C'est la question auto ta gueule en fait. Tu la poses et il y a un silence de 5 minutes.
Et c'est pas lié à quelque chose que fait Warwick.
Ah non, non, lui il a aucun rapport.
Aucun.
Aucun. D'accord.
Mais ça le concerne quand même.
Ah non, ça le concerne pas du tout. Il se trouve qu'il porte le même nom. Et c'est ça qui est rigolo.
Ah C'est un homonyme donc.
Non, c'est pas un homonyme parce que le Warwick dont je parle, c'est pas une personne.
Ouais, mais c'est quelque chose qui s'appelle Warwick.
Tout à fait.
D'accord. Warwick, où est-ce que...
C'est un monument ou...
Non. C'est un lieu devenu célèbre désormais en Formule 1.
C'est un virage ?
Non.
C'est un virage.
C'est plus grand qu'un virage.
Un circuit ?
Un circuit ?
C'est plus grand qu'un circuit.
C'est la pit lane de Silverstone qui a été renommée Warwick.
Non, c'est plus grand que la pit lane de Silverstone qui a été renommée Warwick.
Et donc pour toi, la pit lane de Silverstone, c'est encore plus grand qu'un Grand Prix.
Il a failli y aller, et oui.
C'est un aéroport ?
C'est encore plus grand.
C'est une ville ?
C'est encore plus grand.
C'est une région ?
C'est un comté, on va dire.
Comté de Warwick,
c'est le Warwickshire. Et il y a quelqu'un qui est né dans le Warwickshire et qui fait la fierté des habitants du Warwickshire, désormais. C'est une information que j'ai trouvée que sur un seul site. Et effectivement, cette personne est née à Warwick, enfin, dans le comté de Warwick, ce qui est étonnant pour quelqu'un qui travaille en Formule 1.
C'est un...
Là, vous avez tout pour trouver la réponse en deux secondes, normalement.
C'est quelqu'un qui est né dans le comté de Warwickshire.
Oui.
Qui fait donc de la F1.
Voilà.
Et qui travaille en Formule 1.
Et qui maintenant est à l'origine de la fierté de ses concitoyens de Warwickshire.
Adrien Newey ?
Non.
Lewis Hamilton ?
Non. Ça se voit qu'on en a pas parlé sur Fan F1. Pourtant, alors les sites britanniques, ils n'ont fait que ça, à croire qu'il n'y avait rien d'autre d'important cette semaine à part Bip et Mercedes.
C'est Christian Horner ?
Bah oui, c'est Christian Horner qui est né dans le comté de Warwick.
Ah oui, il a été
dans la promotion des membres de l'ordre britannique pour l'anniversaire de la reine cette année. Donc il est devenu un OBE, un membre de l'ordre de l'Empire britannique.
C'est-à-dire que maintenant il va falloir dire Sir Christian Horner ?
Alors là, bon, on dit déjà pas Sir, parce que je crois que c'est pas pareil en fait, parce qu'on dit pas Sir Lewis Hamilton.
Non. Donc, mais parfois on dit Sir Frank Williams.
Ouais, mais Frank Williams, ouais, il doit être MBE ou un truc dans le genre. Donc voilà, donc vous le saurez maintenant, Kristen Arner est née dans le comté de Warwick, mais ça n'a aucun rapport avec Warwick.
Elle était costaud.
Alors en fait, pour tout vous dire, ça c'est venu de dans l'un des articles que j'ai lu. Il n'est pas né dans une ville qui s'appelle Warwick, puisque c'est le nom du comté. Mais en fait, il avait fait une interview dans un journal, je crois britannique, où il posait à moitié, enfin nu. D'ailleurs, un truc de F1 où il pose nu, on voit rien, mais il pose totalement dénudé.
Ah, c'est une vieille photo, ouais. Je crois.
Et c'est à l'époque où il était en GP2, et dans la description, il dit qu'il est né à Warwick. Et en fait, après une petite recherche, il est pas né à Warwick, il est né dans le comté de Warwick. Mais c'est rigolo de savoir que, voilà, qu'il y a un mec en Formule 1 qui est né, dans une ville qui porte le nom d'un pilote, mais qui a aucun rapport avec ce pilote.
Oui. Et aussi qui fait des photos à poil.
Oui. Et il est poilu, le sauvage. Christiane, c'est pas aérodynamique tout ce que tu portes.
Je suis pas mécontent qu'on ait eu ma question et pas la tienne.
Donc Ben, tu vas avoir le droit à ta gueule ce soir.
Oui, tu le sais.
Ou alors je le mettrai peut-être à Shiji. Je sais pas, parce que moi je peux. Moi j'ai le droit de mettre à ta gueule à Shiji, c'est mon ami, il me parlera. Alors toi, Ben, t'es belge. T'as pas le droit.
Moi qui pense avoir gagné l'immunité en répondant à ta question.
Non. On n'est pas à Koh-Lanta, il n'y a pas de collier, il n'y a rien.
Ça serait trop beau. Allez, on va passer aux actus. Et il y a eu des actus. Et même des actus qui ne concernent pas Bip.
Ah, moi j'en ai pas mis.
Non.
Non, mais il y en a qui en ont mis.
Bah,
il y en a, on dit, oh, on ferait bien l'émission 0% Pirelli. Et puis ils se disent, oh, on va quand même mettre une actu pour voir si c'est vraiment 0%.
Et on va commencer avec James Allison et la rumeur. Oui, il ne partirait pas chez Red Bull. Il ne partirait pas chez McLaren. Il ne partirait pas chez Ferrari. Non! Il ne ferait que concevoir une voiture pour Honda.
Ouais, enfin, McLaren, pas encore tout de suite, quoi, tu vois. Ouais. Faire un intérim, quoi. Il va pas aller faire une voiture chez Honda. Quasiment, à mon avis, ce serait pas étonnant qu'en 2015, il débarque chez McLaren avec le moteur, quoi.
Oui, la voiture. Puis t'es un peu obligé aussi de... Il sera obligé de travailler avec McLaren, dans la mesure où...
Bah, oui.
Ils vont quand même avoir... Ça va être le partenaire motoriste privilégié. Donc, si vraiment il travaille avec Honda... Pour construire une voiture, elle va être obligée de se renseigner un peu sur les spécifications de la McLaren.
Enfin,
après, ce serait étonnant que Honda le laisse partir ailleurs, quoi, parce qu'il aura des infos sur le moteur, etc. Donc,
il le renvoie chez Lotus.
Et en même temps, construire une voiture, si ça se trouve, il est juste bon en peinture en bâtiment. Hein. La voiture, ça va être une McLaren, il va la repeindre.
Il y a peut-être des chances.
Oh, je la repeins en blanc. Oui, je l'ai conçue. C'est une Honda. Non, mais c'est une McLaren. Non, c'est une Honda. Regardez, elle est blanche.
Mais c'est ça en fait, c'est là où on entre, il faudra voir dans le règlement ce qui est stipulé exactement,
et savoir la limite. C'est-à-dire, est-ce que... Techniquement, dans le règlement, puisque Honda n'est pas une équipe de F1, on est d'accord, mais normalement, c'est très quoi dire, mais il n'est interdit à personne sur cette planète de construire une voiture conforme à la réglementation de la Formule 1.
Oui, mais il y aura forcément ne serait-ce même de l'intelligence.
Ah oui, non mais McLaren, on est d'accord. Enfin... On est d'accord. Mais si tu veux, si nous le SAV à 7, on se disait tiens, on va construire une voiture, elle sera conforme à la F1. Techniquement, on peut pas nous l'interdire.
Ça serait une belle idée à la con.
Ça serait une belle idée à la con, oui.
Quoi, j'ai lu qu'il y a un mec qui avec des pièces détachées qu'il a pu acheter et compagnie, il a construit une Formule 1 qui est homologuée, je crois que c'est en Belgique d'ailleurs, qui est homologuée pour la roue, on lui a plusieurs fois proposé de l'acheter, ça lui a coûté 10 000 euros, on lui a plusieurs fois proposé de l'acheter 20 000 euros, il a toujours refusé. Par contre, il encourage les constructeurs à se lancer, il affirme que c'est une preuve pour lui qu'on peut construire une monoplace homologuée pour la route.
Ouais, il a racheté différentes pièces, essentiellement des barres, je pense, par exemple, le 2003.
Peut-être un peu de barres, un peu de Super Aguri, des choses.
Il y a un peu du Williams, il y a un peu de tout, quoi. Par contre, je savais pas que c'était en Belgique, mais j'avais lu l'info, mais le fait que c'était en Belgique ne m'a pas marqué.
Donc, c'est vrai que réglementaire...
c'est un peu bizarre, donc du coup, moi, j'ai pensé Belgique. Ouais.
Mais c'est vrai que réglementairement, je me rappelle même que je me souviens bien, vers le courant des années 99-2000, ils avaient construit une voiture de test.
Ouais, bah ouais.
On leur avait pas reproché. ils ont le droit de construire une voiture réglementation F1.
Ouais, puis ça prouve qu'ils ont, enfin, en 2000, ils avaient les moyens. Je pense qu'ils sont parvenus avec McLaren pour faire de la figuration. Mmh. Donc, je pense qu'ils vont de nouveau mettre l'argent pour réussir. D'autant que leur dernier passage en F1 n'est pas une franche réussite. Mmh. Donc, ils vont vouloir faire oublier ça vite.
Et comme tu le disais, Dino, on en avait discuté que, a priori, les châssis Honda ne leur appartiennent plus. Puisqu'ils appartiennent à Mercedes.
Oui, puis il y aurait aucun intérêt. Je pense que là où ça va être intéressant, surtout, et c'est là où on a du mal à imaginer quand même que ça sera fait sans véritable relation technique avec McLaren, dans la mesure où l'intérêt de construire un châssis spécifique pour cette voiture-là, c'est aussi pour tester la voiture dans la configuration la plus proche de, tester le moteur dans la configuration la plus proche de ce qui sera en 2015. Donc, ça veut dire qu'il va falloir que Honda ait des informations sur l'agencement des pièces sur la McLaren ou ce genre de choses pour avoir le meilleur rendu. Donc, grosso modo, cette Honda de développement, elle va plus ou moins ressembler quand même à une McLaren. Enfin, je vois pas comment c'est possible de faire un truc en nous assurant. Il y a rien de McLaren, les gars, arrêtez.
Ça va être une McLaren 2014 repeinte.
Ouais, et puis surtout, au final, ça va devenir, avec les évolutions, etc., sûrement aussi la McLaren
2015. Ouais. Ouais.
Et c'est là, effectivement, où ça risque de poser problème. C'est que, on avait déjà eu le cas avec Toyota dans les années 2000. Enfin, ils avaient commencé à concevoir leur voiture. Ils avaient quand même bénéficié d'essais pour développer leur voiture l'année suivante, sans que ce soit véritablement des essais. Donc c'est toujours un peu le cas compliqué dans ces histoires-là.
Oui, parce que là encore c'est pareil. À partir du moment où ils ne sont pas engagés en F1, ils sont soumis à aucune limitation des équipes.
Par contre, alors si ça se confirme, parce que c'est toujours pas confirmé, mais si ça se confirme, ça montre d'abord la détermination de Honda.
Oui.
Ça montre aussi qu'ils sont déjà plus ou moins prêts à avoir une voiture, enfin avoir
finances.
Un moteur. Ils ne sont pas en train de commencer leur moteur aujourd'hui. Ça fait pas mal de temps qu'ils planchent dessus, donc ils sont plus ou moins prêts à mettre une voiture en place pour l'année prochaine. Et puis ça veut peut-être aussi dire que tu dépenses pas autant d'investissement et d'argent pour peut-être fournir qu'une seule équipe. Il y a peut-être derrière le projet, pourquoi pas, de fournir une deuxième équipe. Et c'est là où moi je fais le lien entre James Allison et Lotus. C'est pas inimaginable de voir James Allison être parti pour éventuellement revenir dans les bagages de Lotus en 2015 avec la perspective d'un partenariat Lotus-Honda en même temps que Lotus-McLaren. Enfin, McLaren-Honda. Mm.
C'est toujours pas clair, ça, on sait pas. Pour 2015, bon, il y aura McLaren Honda, mais est-ce qu'il y aura d'autres équipes? Potentiellement, parce que rien n'a été...
Alors, potentiellement, on sait que l'apparemment, ça discute du côté de Renault, avec Caterham et avec Lotus. Il semblerait que Lotus va garder le moteur Renault l'année prochaine. Maintenant, on a aucune garantie sur le fait que peut-être que le partenariat avec Renault va juste prolonger pour 2014 et que c'est peut-être là-dessus d'ailleurs que les négociations traînent un peu. Peut-être que Renault voudrait s'assurer deux ans.
Ah oui,
et peut-être que Lotus a déjà Honda en ligne de mire. Peut-être que aujourd'hui Lotus attend d'avoir discuté avec Renault et d'avoir trouvé un accord avec Renault pour annoncer quelque chose par rapport à Honda. Et c'est ça qui est étonnant dans cette histoire, c'est que si ça se confirme que Honda projette vraiment de concevoir un châssis de développement pour son moteur, tu conçois pas ça juste pour une seule écurie. Ou ça veut dire soit Honda, ils ont le projet à plus ou moins long terme de peut-être revenir eux-mêmes, ou alors de s'associer à plusieurs écuries. On peut penser, il y en a plusieurs, il y a Lotus, il y a Sauber, il y a...
Ils pourraient aussi s'associer avec le manufacturier de pneus, quel qu'il soit.
Tu veux dire genre bip?
Bip ou un autre.
Ouais,
mais histoire d'avoir une voiture conforme aux réglementations et tout ça.
Ouais, mais est-ce que ce serait autorisé de faire ce genre de choses?
Oui.
Mais c'est là où on rentre effectivement dans des zones de flou où techniquement, et on est bien d'accord, on peut pas empêcher ce type d'essai-là dans la mesure où l'équipe, Honda officiellement n'est pas dans le championnat. Donc on peut pas empêcher ça, il y a aucune réglementation qui s'applique, mais on peut pas non plus oublier que ça a un impact malgré
oui.
tout sur pas directement 2015, enfin pas directement 2014, mais sur 2015. Enfin, on l'a dit tout à l'heure. Oui, la McLaren 2015 risque de ressembler plus ou moins à cette Honda. Cette Honda de développement.
Ouais, puis en fait, ici Honda n'est pas une écurie, donc les réglementations, c'est d'autant
moins. Voilà.
C'est purement motoriste, quoi. Donc eux, ils vont tester avant tout officiellement leur moteur. Même si derrière, effectivement, ils vont pas tester que ça.
Il y aura aussi des retours d'infos sur le châssis.
Ils vont juste tester leur moteur avec Jenson Button et Sergio Perez.
Qui, eux, essayeront d'être... Voilà.
De nouvelles couleurs.
Tout noir. Ce sera pas facile de les différencier, mais bon, c'est
ça
pas grave.
Ça sera une Honda orange. Voire bleu et blanc. En tout cas, c'est pour le moment, c'est de l'ordre de la rumeur et c'est pas clair, enfin...
Bah même sur le nombre d'équipes qu'Honda va motoriser, parce que quand ils ont fait l'annonce avec McLaren, il était question que c'était pas un accord exclusif. Puis quelques jours plus tard, un des responsables de chez McLaren, je sais plus, mais a dit que si, Honda ne sera engagé que avec nous pour 2015. De nouveau, là, je pense qu'il y a deux sons de cloche et...
Commence bien ce partenariat. Il commence déjà à dire le contraire.
Allez, deuxième actu de la semaine. On l'a pris aujourd'hui. Peut-être que le mot génie sera un petit peu plus petit sur la voiture à partir du mois, dans deux semaines, puisque Génie a vendu 35% de ses parts dans Lotus, donc un autre en fait fonds d'investissement, hein, si j'ai bien compris, s'appelle Infinity. Ah,
voilà, consortium avec Infinity des gens, des Américains.
Et qui n'a strictement rien à voir avec Infinity.
Oui, en plus, c'est vrai.
Alors c'est si j'ai bien compris, c'est un consortium qui regroupe à la fois, je crois que c'est un fonds de pension américain ou un fonds d'investissement américain. Il y a des membres d'une famille royale d'un pays pétrolier. Il y a quoi d'autre?
Des investisseurs d'Abu Dhabi.
Des gens d'Abu Dhabi, voilà.
En plus de l'autre famille pétrolière.
Donc tout ça.
Des gens qui n'ont pas d'argent, ouais, voilà. Quoi. Voilà, en gros.
Alors, ce que je comprends pas, c'est les déclarations de Lotus qui estiment que ça va les aider à avoir un sponsor titre.
Quand ça s'appellera QNB Lotus F1 Team l'an prochain, tu comprendras.
Oui, c'est ça. Pourquoi pas envisager le nom du pétrolier comme sponsor titre? Ce serait pas le premier. Maintenant, est-ce que ça rentrerait pas en conflit total?
Oui, c'est tout un problème.
Non, ce qui serait cocasse, c'est qu'ils deviennent le sponsor titre. Et donc que ça soit Infinity Lotus, mais avec un Y.
Non,
parce que c'est la subtilité du truc.
Ah non, c'est vrai qu'en même temps, ils sont obligés de garder Lotus, ils veulent garder le pognon. Donc ils sont obligés jusqu'en 2017, je crois.
Oui, mais ils peuvent s'appeler Infinity Lotus F1 Team.
Ouais, mais non, ça aurait été plus drôle qu'ils s'appellent Infinity F1 Team.
Oui.
Là, vraiment, Red Bull l'aurait eu à travers de la gorge.
De toute façon, oui, avec 35, ils ne sont pas majoritaires. Donc, ils vont pas changer de nom. Hein. C'est toujours Gilly qui est...
Non, mais mais avec les 2% de l'autre, ça peut effectivement, ça fait 37%. 37%, plus 2, 3% comme ça par-ci, par-là, ça fait vite 39, voire 40%. Et puis après, avec 2, 3%, on arrive vite à 43%.
Ouais, puis 2, 3% en plus.
Parce qu'en plus, généralement, dans ce genre d'affaires, c'est-à-dire que c'est 35% de la valeur après que tu aies apporté ton argent. Donc en fait, l'équipe s'est enrichie puisqu'il y a 35. Enfin, le nouveau propriétaire a amené de l'argent qui fait qu'il reprend 35% de la valeur après investissement. Donc ça veut dire que le mec qui avait acheté 2% de Lotus il y a un mois et demi, aujourd'hui, ces 2%, c'est 1,1, 1,2% en fait.
Mais surtout avec 35%, ça justifie totalement d'être sponsor titre, entre guillemets. Donc, faudra voir, ouais. Ils mettront à la place de Génie sur les pontons l'année prochaine. Et Infinity sur les pontons, c'est vraiment. Hein. Avec un petit dégradé, tu vois, le rouge serait moins.
Attends, je te comprends pas.
Rouge,
noir et or un peu jaune. C'est ton drapeau.
Ouais, enfin, il tire plus vers le beige.
Oui, et un peu d'imagination. Ton pilote préféré, il défend les couleurs de ton pays. Moi, je serais toi, je serais fier. Monsieur Rall, il n'aime pas le rouge. Mais arrête.
Non, je n'ai pas dit que j'aimais pas le rouge. J'aime pas le rouge sur la Lotus. Voilà.
Ah, t'es à deux doigts de ta gueule. Tu vois, là, tu prends deux doigts, tu regardes, ça te sépare de ta gueule. Mais ça reste une séparation.
Mais c'est bien, c'est rassurant. Pareil, les annonces pas terribles qu'il y avait eu sur Lotus et ses déficits. Ouais. C'est du cash, quoi.
Rassurant.
Enfin, c'est du cash, quoi.
Ouais, disons que ça confirme quand même que financièrement, ils sont quand même un peu.
Oui,
Génie
sans doute partira. C'est un fonds d'investissement, leur but c'est d'acheter et de revendre des trucs. C'est le principe de.
Mais ça veut dire que le nouveau fonds d'investissement partira aussi.
Bah oui, c'est pas rassurant dans ce cas.
ça, je pense que ça prouve aussi, c'est que en l'état aujourd'hui, l'équipe est invendable.
Non, pas
ouais, il faut absolument qu'il y ait un montage financier qui permette à l'équipe de retrouver une situation financière un peu meilleure pour ensuite pouvoir vendre. Je pense que l'intérêt de ce groupe de ces 35%, c'est d'abord capitaliser sur l'image. Enfin, moi, ça me fait rire, c'est d'entendre dire oui, la technologie CARES et compagnie. Oui, mais pourquoi ils sont allés voir Lotus? Ils pouvaient voir d'autres écuries, il n'y a pas que Lotus. Mais le vrai fond, pourquoi Lotus, c'est que ils vont investir dans une écurie qui a besoin d'argent, qui sportivement en termes d'image et compagnie est une écurie très bankable et qui a une grosse valeur sur le marché. Voilà, donc en amenant de l'argent, en assainissant un petit peu tout ça, ils peuvent espérer effectivement d'ici 4 ou 5 ans peut-être faire une plus-value sur les 35% qu'ils ont mis aujourd'hui.
Allez, ensuite on va partir vers les circuits avec quelques nouvelles. Alors d'abord, on a appris que le circuit en Thaïlande, ça sera pas à Bangkok. Alors ils ont un projet peut-être à Phuket, hein, à la place.
Ouais, parce qu'à Bangkok, le centre historique.
Non, ils veulent pas du tout. Voilà, c'est impossible à Bangkok.
C'est quand même bizarre, ça. C'est-à-dire que c'est le gouvernement qui déclare qu'on peut pas faire le Grand Prix, alors que 3 semaines avant, ils ont présenté, le gouvernement eux-mêmes, ont présenté le projet de circuit.
Ouais, c'est eux qui sont demandeurs en plus.
Oui,
enfin,
c'est ça
qui
est très... je comprends pas.
Il y a un problème, les gars.
Faut qu'ils se parlent entre eux, hein, je crois. C'est surtout ça le truc. Et donc ensuite, des contrats, on sait que le New Jersey sera là pour 15 ans. Ouais. Et on va se faire chier.
Ouais, bah,
tu te rends compte qu'il y a des grandes chances qu'on se fasse chier sur ce circuit, que le seul intérêt qu'il aura, c'est juste la vue sur New York.
Non, ça sera un super circuit, vous allez voir. Écoutez bien, que ce soit enregistré, que ce soit retenu, vous allez adorer ce circuit. Pour la vue, mais pour les courses, et pour c'est un Canada, mais avec du dénivelé. Moi, je vous dis, il va être génial.
Ah, j'attends de voir. De toute façon, les nouveaux circuits, je me méfie toujours un peu.
Et justement, tu parlais du Canada. Eh bien, eux, ils veulent un contrat de 10 ans.
Il faut le ravirer quelques téléspectateurs, hein, parce que franchement, on n'en peut plus. Ces gens qui sifflent. De petits cons.
Ça serait bien, un contrat de 10 ans, quand même. Ça sécuriserait ce Grand Prix.
Ouais, le Canada, c'est partie des rendez-vous, pour moi, qui sont incontournables. Quoi. C'est toujours...
Et ça a été dit justement à l'occasion de ces actualités, c'est en train de devenir la norme. On sait que c'est Silverstone aussi qui avait un contrat de très longue durée.
Ouais, mais ils veulent plus dire grand-chose des contrats. Enfin, c'est-à-dire que, oui, parce que même si t'as un contrat, ça n'empêche pas quand même que si t'as des rumeurs, enfin si t'as une situation économique qui est pas bonne, ton contrat il t'offre rien, quoi.
Oui.
On se rappelle quand même que le Grand Prix de France, ils avaient un contrat et c'est eux qui ont décidé d'arrêter d'organiser le Grand Prix parce que financièrement ils pouvaient plus. Donc avoir un contrat, c'est bien. Ça veut dire que du côté de Bernie Ecclestone, lui ne pourra pas se séparer aussi facilement des Grands Prix.
Voilà.
Après, est-ce que les Grands Prix pourront on sait très bien que le problème du Canada, ça a toujours été sa situation économique et le fait que le Grand Prix n'était pas toujours très rentable. Voilà, c'est surtout ça qu'il faudra voir. Après, un contrat, je pense que ça serait une évidence que le Canada ait un contrat.
Parce que dans le même ordre d'idée que la France, on sait bien que la Corée, ils ont un contrat aussi, mais que s'ils pouvaient s'en dépêtrer, dans l'absolu, je pense qu'ils diraient pas non.
Et on ne dirait pas non non plus.
Non.
D'ailleurs, c'est qui dit non?
Bah, je pense que personne ne se plaindrait que la Corée...
Je crois que Bernie, il est prêt à dire oui, mais en fait, non, parce que il y a une indemnité de rupture de contrat.
Non, mais c'est ça la magie des contrats. C'est-à-dire, par exemple, tu prends le truc de Corée du Sud, c'est que tout le monde veut le casser, mais le problème, c'est que celui qui casse, il paye.
Bah ouais.
C'est ça qui emmerde tout le monde.
Ouais, puis de toute façon, Bernie, il n'a jamais mis les pieds en Corée, lui, du Sud.
Non.
Parce qu'il a déjà été
C'est trop humide, c'est pas bon pour son arthrose.
Oui.
Et puis ça fait boucler ses cheveux.
Puis il aime pas les vaches.
Il y a de la buée sur ses lunettes, il y voit plus rien, c'est une vraie cata.
Bah dans ce cas, on va passer à la quatrième actu, la dernière actu principale cette semaine, car...
L'émission va durer
20 minutes. Oui, mais c'est parce que aujourd'hui, c'est 0% Pirelli. Voilà. On en a marre.
On va mettre un bip.
Non, tu as le droit de le dire quand c'est à côté d'un 0%, pour bien préciser qu'on n'en parle pas.
Voilà. D'accord.
On en parle quasiment toutes les semaines. La semaine prochaine, on sait tous très bien qu'on ne va parler que de ça, puisqu'on sait très bien ce qui va se passer.
Bah oui, puisque jeudi, on a les...
On sait tous ce qui se passe. Voilà.
Le tribunal, donc...
Donc, avant ça, une petite semaine, on n'en parle pas. Voilà. Et au lieu de ça, on va parler d'un truc beaucoup plus sain, hein, beaucoup plus agréable pour la F1. C'est bien évidemment, hein, la rumeur du jour. Et si Red Bull avait triché? Oui, vous l'aimez, la F1. Vous aimez la F1 quand elle est comme ça, hein.
Donc une information lancée par le site italien Autosprint, qui donc s'appuie sur des images du Grand Prix du Canada, notamment l'accrochage, enfin principalement l'accrochage avec Van der Garde.
Oui, entre Weber et voilà. Van der Garde.
Et donc à la sortie de l'épin qui s'arrête, qui zoome sur les traces de pneus de Marc Weber.
Et il faut avouer que sur l'article de Fan F1, il y a la photo avec un joli cadre rouge. Et c'est vrai que...
Les traces de pneus en pointillés...
Y a-t-il un système de traction control? C'est vrai que le coup des traces en pointillés, ça fait vraiment le coup de... traction control, ne pas déraper.
Ce qui serait quand même grave, c'est qu'avec le traction control... Je sais pas si ça permet de faire des bons départs. Parce que sincèrement, avec le traction control...
Ils s'en servaient pas pour...
Mais il me semble que ouais, ça entrait aussi en ligne de... On se rappelle que Ferrari, malgré l'interdiction, avait quand même réussi à développer un système de contrôle de traction dans les années 2000, je crois, qui avait obligé en fait la FIA à légaliser, parce qu'ils avaient aucun moyen d'interdire ce système-là. Donc c'est toujours le problème, c'est que pour le moment on dit qu'ils utilisent un système illégal, certes c'est illégal, maintenant faut voir...
C'est une hypothèse, hein, on rappelle. Voilà. Hein,
ça va contre l'esprit du règlement, on sait que l'esprit du règlement veut qu'il n'y ait pas de traction control, maintenant il y a l'esprit, il y a la lettre, ça se trouve, d'abord ça se trouve, il n'y a rien.
Faut le dire, là on en parle, ça se trouve, il n'y a rien, il y a tout ou il n'y a rien, faut pas...
Soit il n'y a pas de système, soit il y a un système, mais rien ne nous dit qu'il n'est pas légal. C'est toujours un peu le problème. Et c'est vrai que moi j'ai vu un commentaire aujourd'hui sur FanF1 qui disait, oui, de toute façon, la FIA prendra pas de sanctions et compagnie. Il faut bien faire la part des choses, notamment au regard de l'affaire Bip et Mercedes. C'est que, du côté de l'affaire des essais de Barcelone, on a là une FIA qui, est quand même la gestionnaire, la responsable de la bien-tenue du championnat, et donc il se retrouve face à des essais qui sont faits dans son dos, et encore dans son dos, ils étaient quand même un tout petit peu au courant.
Ça reste à prouver.
Donc leur responsabilité, elle est claire. Là, par contre, la FIA fait un règlement. Derrière, si une équipe trouve un moyen de contourner ce règlement pour développer un système de traction control, personne n'a rien dit à Mercedes quand on a parlé au début de saison du système qui corrigerait soi-disant l'assiette à l'avant à l'arrière, alors que dans l'esprit ça a été refusé l'an dernier à Lotus. Enfin voilà, on peut pas reprocher à la FIA de ne pas anticiper des interprétations techniques que vont faire des ingénieurs. Alors après c'est à la FIA de montrer si, d'enquêter et de prouver si il y a effectivement infraction technique sur ce point-là.
Si y a un loup ou un délire d'un journal italien.
Oui. De toute façon, trouver la faille dans le règlement, ça fait partie aussi un peu du jeu de la Formule 1. Ça a toujours été. Dans l'histoire, il y a plein d'exemples où il y a des questions, on s'est posé la question, est-ce que c'est légal, est-ce que ça l'est pas? Parfois, la FIA a tranché en disant que ça ne l'était pas, et d'autres fois, elle a dit, on peut rien dire, c'est bon. Effectivement, ici, sur Red Bull, il y a absolument rien. Moi, je découvre l'info, en fait. Hein, donc,
c'est vrai que juste des traces, bon, c'est vrai que ça fait penser, mais c'est quand même mince, quoi.
C'est-à-dire que ça se doit éveiller les interrogations, notamment de, je dirais pas de la FIA, mais oui, enfin, je pense que lors de la prochaine inspection, il faut que la FIA regarde. Ça serait pas la première fois. Hein. On se rappelle, je crois que c'est l'année dernière, Ferrari avait cassé, enfin, a vu un accident, l'aileron avant avait été endommagé, et on avait vu qu'il y avait des câbles dans l'aileron avant, donc derrière, la FIA avait enquêté, il y a régulièrement des demandes d'éclaircissement. Je pense que là, si vraiment ça mène à quelque chose, il y aura une demande d'éclaircissement. Pour le moment, je crois que les équipes sont un petit peu intéressés par autre chose. Surtout les équipes qui pourraient être intéressées à l'idée de pouvoir porter atteinte à Red Bull. Mais en même temps, on peut se demander aussi si l'intérêt, c'est pas ça aussi. C'est-à-dire d'un peu détourner l'attention de Mercedes et de Bip en rappelant, c'est-à-dire que tout le monde dit journal italien, donc forcément pro-Ferrari. On peut très bien dire aussi que journal italien, donc peut-être un petit peu tuyauté par la marque de pneus que vous connaissez tous, qui pourrait dire, écoutez, d'accord, on peut parler de ça, mais dans ce cas-là, pourquoi ne pas parler du système développé sur la Red Bull? Enfin, on peut imaginer, c'est pas forcément, il n'y a pas que Ferrari en Italie, il y a aussi la marque italienne qui fabrique les pneus en Formule 1. Et qui, en ce moment, aurait un petit peu tout intérêt à retirer l'ombre pesante des médias au-dessus de sa tête et au-dessus de celle de Mercedes.
Surtout vis-à-vis de Red Bull. Enfin, j'ai pas été là moins critique.
Ouais, et puis si système IA, c'est peut-être aussi, en l'occurrence, pour préserver les pneus Ça peut aussi aider l'usure des pneus arrière, ouais. On sait pas.
Ah bon, c'est un chapitre qui est ouvert, qui sans doute ne va pas se refermer tout de suite.
Non.
On est en...
Au moins, ça va... Oui, ça va au moins faire parler jusqu'au Grand Prix de Grande-Bretagne. Et là, si la FIA fait ses petites vérifications et tranche dans un sens ou dans l'autre...
C'est ça le pire, c'est... Encore faut-il qu'il y ait une réclamation...
Oui, bah oui, il faudra voir aussi si...
C'est, très bien, c'est comme ça que fonctionne la FIA, de toute façon, c'est toujours la même manière. C'est leur argument de dire « Ah ben nous, tant qu'on nous demande pas de regarder, on regarde pas. Ah, » pourtant, tous les week-ends, vous regardez. Donc,
oui.
Mais c'est-à-dire aussi, c'est ça qu'il faut préciser, c'est que lors des inspections, ils se concentrent sur des points. Ils peuvent pas inspecter toute la voiture. Ils peuvent pas... Enfin, des systèmes aussi techniques que ça, il suffit que ce soit un système un peu électronique ou un peu hydraulique et compagnie. Et pour aller chercher à savoir pourquoi, les mecs se concentrent sur... Le principal, c'est la longueur des ailerons, la conformité de l'écart des roues, enfin ce genre de choses. Ils peuvent pas aller beaucoup plus loin.
Oui, puis s'il n'y a pas réclamation des autres écuries, c'est qu'a priori, il n'y a pas à faire tout un plat non plus. Quoi. Parce que s'il y a effectivement réellement un soupçon de, il y a une écurie
qui
va sortir du bois, ça c'est logique, c'est évident.
Allez, on va en finir, oui. Il n'y a que 4 actus. En même temps, le problème cette saison, c'est qu'il y a tellement un sujet qui bouffe tout que le reste, il n'y a pas grand-chose.
Ah, lequel ? Moi, je ne vois pas.
Bah, j'aurais bien rajouté une actu, mais ça fait partie d'un futur débat.
Ouais, donc, voilà. Moi, c'est pareil. Moi, je ne l'ai pas mise parce que
je ne l'ai pas mise.
On va en discuter.
Oui, oui.
Voilà, nos auditeurs nous
non,
nous
mais...
ont toutes... Enfin, bref.
On en...
voilà, empêche de faire notre boulot.
On va revenir sur le sondage du dernier mag. Donc, souvenez-vous, nous vous avions demandé qui pour remplacer les pneus BIP en 2014. Vous avez été 77 à voter. Et désolé, Dino, ta blague n'a pas marché. Elle n'a même pas marché du tout. Puisque avec un vote, on trouve pas un gars de chez McLaren.
C'est pas moi qui ai voté.
Pourtant, elle était sympa.
Ouais, ça, c'est parce que c'est les gens qui votent sans écouter l'émission. C'est ça, voilà.
À égalité avec Panzani. Donc, un vote aussi. Deux personnes seulement ont voté personne. Donc, il n'y a que deux personnes qui souhaitent voir des F1 rouler sur des jantes. À égalité avec 4 votes. C'est intéressant, ça. On trouve à la fois Roscoe et Bernie Ecclestone. Hmm? 5 votes, on trouve les Hollywood Chewing Gum, 6,49%. 8 votes, les gommes Maped, 10,39%. Et donc, le tiercé de cette semaine. 10 votes, le petit bonhomme en mousse, 12,99%.
Ah, on aimerait tellement qu'il passe sous les roues d'une Formule 1, celui-là.
Du haut de son plongeoir. Vous voulez aussi un retour des pneus durs, mais bien durs, hein, puisque Lego a reçu 19 votes, 24,68%. Et donc, la première proposition, 23 votes, 29,87%. Chaque équipe fait ses pneus.
Ah, les gens ont du goût.
Au moins, comme ça, tout le monde serait content.
Mais c'est là qui est intéressant, c'est que tu vois finalement que dans le fatras de propositions absolument débiles qu'on a,
oui.
mine de rien, généralement, on ressort quand même quelque chose de relativement pertinent. Et c'est vrai que ça, c'est relativement pertinent que de proposer à chacun de faire ses propres pneus. Voilà, c'est pas une idée saugrenue. C'est moins saugrenue que Lego ou Roscoe.
Oui.
Surtout que dans l'absolu, les pneus BIP, pardon, sont déjà financés en partie par les écuries. Puisqu'elle participe.
Mais on n'en parlera pas, puisque cette semaine, on n'en parlera pas.
Ah, c'est trop dur, Lady.
Passons, messieurs, aux actus dont on se fout, mais dont on se fout pas vraiment. Puisque cette semaine, il y a une catégorie d'actus dont on se fout vraiment.
Oui, voilà. Ce qu'il faut savoir, c'est que celui-là, il a un petit fichier. Sur son petit fichier, il a un code couleur.
Oui, j'ai des codes couleurs. Il y a les actus bleus, qui sont les actus principales. Les actus jaunes, qui sont les actus dont on se fout. Et cette semaine, j'ai inauguré la catégorie des actus rouges. Oui, Fab. Oui, Gus Gus. Quand on vous dit, cette semaine, on ne fait pas d'actus, parce qu'on en a marre, eh ben, on ne le fait pas. Ah, tant pis. Et on va commencer par, alors, une triste nouvelle, hein, qui a été couplée à une autre triste nouvelle, mais qui est moins grave quand même. La première, vous l'avez sans doute lu, c'est le décès quand même de José Fraulein González, j'espère l'avoir bien dit, qui était quand même le plus vieux vainqueur de Grand Prix, et aussi le premier vainqueur d'un Grand Prix sur Ferrari, qui nous a quittés.
Voilà.
La minute de silence, ça c'est... Ah non, mais moi j'ai mis dans mes actus parce qu'il fallait bien en guillemets mettre quelque chose, et puis que c'est vrai que c'était effectivement le plus vieux vainqueur de Grand Prix encore vivant. Premier vainqueur Ferrari, c'est pas
voilà,
rien
c'est
non plus.
Pas rien.
Que ça méritait de souligner, sans qu'on en fasse un grand débat pendant 10 ans, mais C'est pas forcément le pilote le plus connu qui a de la F1, c'est pas forcément celui qui a la plus belle carrière ou quoi que ce soit, mais il a quand même marqué.
Bah, il a marqué la discipline
par déjà la victoire de par Ferrari.
C'est... Et aujourd'hui, maintenant, c'est Jack Brabham, le plus âgé des vainqueurs de Grand Prix.
Oui, il a 80 et des ans, lui. Hein.
Oui.
Enfin, on peut sans doute quand même s'attendre à Silverstone, parce que c'est là qu'il avait gagné.
Alors, ils ont dit qu'il y aurait un truc à Silverstone, peut-être une minute de silence, quelque chose comme ça.
Oui, puis même de la part Ferrari, enfin, on peut s'attendre à ce qu'il y ait un truc sur la voiture ou quelque chose comme ça. On sait que Ferrari orchestre souvent, généralement, ce genre de choses, et on peut s'attendre à ce qu'il y ait des manifestations dans ce...
Oui, en 2011, il y avait eu un hommage, c'est en 2011,
oui,
c'est
ça. Oui, ça m'étonnerait pas qu'il n'y ait pas au moins un brassard noir ou quelque chose comme ça pour rendre hommage.
Oui, à mon avis, il y aura un truc.
Oui, mais je pense même quelque chose sur la voiture d'écrit, genre merci José ou un truc dans le genre. Enfin, dès que tu le dis à la française, ça perd
ça fait ça.
Merci José. Et puis, effectivement, peut-être un tour avec, comme avait fait Fernando Alonso avec la voiture de Silverstone en 51, je crois.
51, ouais.
Bah oui, parce qu'en plus, je suis en train de me dire, la première victoire, elle était où à Monaco?
Non, à Silverstone.
C'était à Silverstone en plus.
Ouais.
Ah ouais. Première victoire, c'était à Silverstone en 51.
Donc, entre guillemets, l'occasion serait belle, oui, de faire un tour, par exemple, avec la voiture de 51, pour lui rendre hommage.
Bon, ça ferait un petit peu bis repetita par rapport à ce qui a été fait il y a 2 ans, mais bon.
Oui, ouais, mais c'est... bon, voilà. Et alors, autre actualité qu'on a appris aussi aujourd'hui, alors qui apparemment est moins grave, hein, mais qui quand même nous touche un peu, c'est quand même Murray Walker qui a annoncé malheureusement qu'il souffrait d'un cancer, mais apparemment ça a été détecté assez tôt, donc lui-même dit que
oui, bah, lui-même,
voilà. Qu'il n'y a pas trop à s'inquiéter. D'ailleurs, apparemment il avait prévu de faire des choses parce qu'il continue à travailler un peu pour la BBC, si j'ai bien compris. Bah il sera pas au Grand Prix de Silverstone parce que il sera de chimio, voilà. Donc, on pense aussi à lui. C'était une actu un peu triste.
Oui, globalement, c'est... Tu viens de plomber le SAV. Ouais. On était bien partis, voilà.
Allez, on va passer à une autre actu dont on se fout. Une actu citée par Ben et qui va pouvoir m'expliquer.
C'est quand même terrible, c'est qu'il y a une actu dont on se fout. Il y a deux actus dont on se fout. Il y en a une, c'est José Froilán González est mort.
Oui,
on s'en fout.
Ah, mais c'est pas qu'on s'en fout.
Et la deuxième actu dont on se fout, c'est Murray Walker a un cancer.
C'est plus, voilà, c'est pas une actu principale. C'est surtout ça.
Chers auditeurs qui nous rejoignez pour cette émission, c'est normal.
Il faut comprendre le sens. C'est pas.
C'est le nom de cette rubrique.
C'est voilà.
On s'en fout pas, justement.
Sinon, on en parle. Sinon, on n'en parlerait pas. Deuxième actu, et Ben va pouvoir nous l'expliquer, c'est Horner sur Verne et Ricciardo. C'est comme ça que tu l'as écrit?
Ouais, figure-toi que j'ai réfléchi 2 secondes avant de me souvenir de ce que j'ai.
Explique-nous.
Non, c'est parce que on parle beaucoup du remplacement de Marc Weber, comme chaque année.
Oui.
Qu'on va arriver dans la période de l'année où ce genre de rumeur va s'intensifier et que forcément, pour le remplacer, on pense en premier lieu
à Kimi.
Même si cette année, on a Raikkonen qui se met un peu dans le jeu, mais après Raikkonen, c'est les deux pilotes Toro Rosso, ce qui serait quand même le plus logique.
Mm.
Et que, aujourd'hui, on a quand même le sentiment que Verne prend, par rapport aux rumeurs, le dessus sur Ricciardo, qui en début de saison était on avait l'impression que Verne n'avait plus droit au chapitre déjà chez Red Bull, quoi.
Sauf énorme surprise, a priori ça serait l'un de ses droits quand même.
Oui.
Oui, de toute façon, déjà Raikkonen dans l'absolu, ce serait un peu une mini surprise parce que, c'est un très bon pilote et la question n'est pas là, mais ça pourrait éventuellement quand même remettre en question la filière Red Bull.
Mais c'est ça le problème. C'est là où ça devient intéressant, le fait que mine de rien, Verne comme Ricciardo ne sont pas mauvais et peuvent prétendre au baquet, c'est que si on prend Raikkonen, c'est que finalement notre filière Red Bull, elle ne sert à rien. J'ai quand même le sentiment que chez Red Bull, on n'est pas non trop content de voir ces résultats-là de ces jeunes pilotes. On est content, mais un peu surpris. Ça les arrange pas. parce qu'ils n'ont pas l'excuse de dire, nos pilotes, ils valent rien, quoi. Ils peuvent pas faire ce qu'ils ont fait avec Alguersuari et Buemi et dire, mais ils ont baissé en performance, ils répondent pas aux espoirs. On est obligé de faire appel à Raikkonen. Si jamais ils prennent Raikkonen, ils sont obligés de dire, on a envie de soutenir les jeunes pilotes, mais c'est pas pour aller chez Red Bull. C'est pour.
L'hypothèse de Raikkonen, c'était juste un épouvantail pour les pilotes en Rosso, hein, pour leur dire, bougez-vous les fesses, parce que regardez.
Est-ce qu'ils ont vraiment besoin de ça?
Ou alors c'est tout simplement pour faire chier Lotus.
Avec le management de Red Bull, ça serait pas étonnant.
Ouais. Mais pour revenir vraiment sur Verne et Ricciardo, on va pas s'emballer, Verne, il y a deux bons grands prix, mais enfin c'est pas encore, ça peut encore se renverser dans le sens inverse, mais c'est vrai que sur ces deux grands prix-là, que ce soit à Monaco ou au Canada, il a fait ce qu'on avait dit dans un précédent mag, c'est-à-dire que à partir du moment où il se qualifiait mieux, je pense qu'il est meilleur que, fondamentalement, que Ricciardo, qui n'est pas non plus un mauvais pilote, hein, c'est pas du tout ce que je suis en train de dire, mais on a bien vu, Verne, sur deux grands prix, a quand même fait deux bonnes qualifs. Il était devant régulièrement aussi aux essais, à Monaco et au Canada, d'entrée de jeu, dans des conditions... Enfin, Monaco, c'est jamais simple. Le Canada, les conditions météo étaient pas évidentes non plus.
Ah, quand il pleut, il y a juste même pas photo entre Vergne et Ricciardo.
Ah non, mais c'est vrai que Vergne, sur la pluie, ça fait clairement partie des tout meilleurs. Et d'ailleurs, il travaille beaucoup sur ce point-là, parce qu'il sait que c'est une... Enfin, aujourd'hui, c'est une force, mais ça l'a pas forcément toujours été, mais je pense que c'est quelque chose sur lequel il a depuis longtemps travaillé, parce que c'est effectivement des conditions dans lesquelles peut te distinguer. On l'a vu avec Bottas au Canada en qualif, même s'il y avait sûrement des réglages plus pour la pluie et que forcément en course, la Williams sur le sec n'est toujours pas au niveau. Mais Vergne, voilà, il fait, je pense que il est en train de... Il est sur une bonne pente, donc il faut qu'il continue à capitaliser là-dessus et... De toute façon, c'est clairement l'objectif chez Toro Rosso, que ce soit Ricciardo ou Vergne, ils doivent, pour passer chez Red Bull, ils doivent pas battre l'autre, ils doivent l'atomiser. Ils doivent vraiment arriver à ce que l'autre n'existe pas. Et je pense que c'est la condition sine qua non pour espérer aller plus haut, chez Red Bull en tout cas. Après, ils peuvent très bien rester en F1 sans être...
Parce qu'ils l'ont toujours dit, ce qu'ils cherchent, c'est le nouveau Vettel. Hein.
Oui.
Bah oui, mais c'est maintenant des Vettel, il n'y en a pas toutes les générations. Et,
Mais après, moi, c'est vrai que moi, j'ai l'impression que ce qui pénalise Vergne, en fait, c'est que Vergne est un, je dirais, un pilote à l'ancienne. D'ailleurs, même quand on voit ses références, enfin, il n'a pas n'importe quelle référence. Ça fait 2 ans à Monaco, il honore des pilotes français, Jean Alési et Sever. Quand tu l'entends parler, c'est vrai que c'est quelqu'un qui, quand tu l'entends parler, il sent la course automobile et il sent l'histoire de la F1. C'est peut-être, je trouve, des pilotes en Formule 1, celui qu'on a le plus l'impression d'être, de voir respecter véritablement la F1, son patrimoine et compagnie. Il y a une vraie culture de la F1 chez lui. Et ça se ressent aussi dans son pilotage. On sent que c'est un pilote qui est beaucoup plus à son aise sur des circuits, voilà, des circuits de F1. Monaco, on l'avait vu à Barcelone et compagnie. Sauf que aujourd'hui, malheureusement, ces circuits-là, ils sont minoritaires sur un championnat. Et d'ailleurs, on se rappelle que l'an dernier, Vettel a été champion sans avoir remporté une seule course en Europe. Donc, ce qu'il est peut-être sur le point de refaire cette année, d'ailleurs. Donc c'est toujours un peu embêtant, je trouve, pour Vergne, c'est que s'il est bon, c'est ça que j'arrive pas à comprendre, s'il est aussi bon sur des circuits comme Monaco, comme Barcelone, qui sont pas des circuits faciles à dompter non plus, ou à Monaco, ou à Montréal, qui sont des circuits complexes. Il devrait être bon partout et j'ai l'impression que sur les circuits extra-européens notamment et surtout les nouveaux circuits, bah là Ricciardo est un petit peu au-dessus. Alors pourquoi, je sais pas.
Allez, on va continuer par une autre actu plus globale sur les pilotes. On ne va pas parler de celui qui a renouvelé, parce que merci Adelin.
Mais on va y venir. Ça pour plus tard. Là.
On va parler de Maldonado, qui a été au centre d'une rumeur de son passage vers Lotus, qui l'a démenti.
C'est qui a mis ça?
C'est Fab.
Ah. Bah voilà, Fab. Tu voulais en parler? Eh ben, on en parle.
Et sinon, D'Ambrosio, Kobayashi et Petrov qui veulent revenir en F1.
Alors ça, je l'ai vu, même moi, j'ai pas voulu en parler.
Ah, dommage, j'ai failli te péter ta gueule pour un endroit où t'aurais pas parlé.
Ah, c'est triste, hein.
Je l'ai sauvé, juste. J'ai entendu dans mon dos, je dis, allez, Dino, tu dis ta gueule.
On peut passer à la suivante, si vous voulez. Hein. Moi-même, ça m'inspire pas.
Non, mais enfin, hormis peut-être Kobayashi encore, sincèrement, les deux autres, je les vois pas revenir. D'Ambrosio, ça fera 2 ans qu'il est plus là.
Mais de toute façon, j'ai pas envie d'être méchant, mais D'Ambrosio, il a jamais été là. C'est-à-dire pour revenir, il a fait un Grand Prix.
Ne pas.
Il a vraiment été. Ah non, j'ai rien dit. Oui,
il a fait une saison.
J'ai rien dit.
Il a pas été mauvais d'ailleurs.
Je m'auto de ta gueule. J'avais oublié l'épisode Marussia.
Non, encore Virgin à l'époque d'ailleurs. C'est Virgin ou Marussia Virgin ou Virgin Marussia, mais ouais. Bon, il avait pas fait une mauvaise saison, c'est Virgin.
Désolé,
mais...
Jérôme. Ça partait d'un bon sentiment, pardon.
Sur la Lotus, il a pas brillé, mais enfin, c'est pas forcément évident non plus. Mais là, ça fait 2 ans qu'il n'y a pas eu
ouais.
F1. Chez Lotus, il est quand même un peu sur une voie de garage.
C'est dommage, c'est que c'est un pilote qui a peut-être plus de talent qu'un Petrov, mais voilà, c'est simplement les finances qui pêchent. Et c'était un bon pilote en GP2, c'était un pilote qu'on voyait régulièrement, qui était là, l'un des meilleurs.
Mais je pense qu'il aurait été même meilleur en F1, parce que c'est Jacques Lafitte qui avait soulevé ça, et je pense à raison. Je pense que c'est quelqu'un qui a besoin de tourner pour vraiment se mettre à l'aise dans sa voiture, avoir confiance. D'ailleurs, on l'a vu l'an dernier à Monza, chaque sortie il s'améliorait, et c'est quelqu'un, je pense, c'est peut-être aussi pour ça qu'il était un peu plus trop porté pour certains, c'est qu'il a besoin vraiment de tourner, de prendre confiance et de prendre du temps pour peaufiner ses réglages. Quand GP2, ils n'ont pas forcément le temps de faire parce qu'ils ont des séances d'essai assez raccourcies et ce genre de choses. Donc voilà, c'est un peu dommage. Je pense pas que ce soit forcément un champion du monde en puissance, mais je pense qu'il a le niveau pour avoir une carrière. Certains ont fait certains pilotes avaient le même niveau et ont fait une carrière depuis de 10 ans en Formule 1. Et c'est vrai que les finances posent problème, quoi.
Mais pareil, pour Kobayashi, ça paraît compliqué. En plus, je crois qu'il envisageait de rembourser parce que il y a eu une espèce de financement, on pourrait dire participatif, ouais, pour lui donner un peu de budget, et il envisageait de le rembourser.
C'est bah, que... C'est-à-dire que s'il n'est pas en effet en 2014, il voilà. remboursera.
Oui, mais le fait qu'il l'envisage, c'est que déjà, il se dit, bon, ça va peut-être pas le faire, quoi.
Ah, où est-ce qu'il y aurait des places enfin, tu vas me dire chez Red Bull Lima, mais enfin, je pense que les candidats manquent
non,
pas, donc ce serait étonnant Kobayashi EA. Chez Ferrari, bah, il y a Massa, dont l'avenir, comme d'habitude, est assez
ouais,
incertain.
Ouais, mais je pense que s'il remplace Massa, ce sera pas pour mettre un Kobayashi.
Je pense pas que ce serait pour mettre un Kobayashi, je pense qu'à la limite, un Bianchi, s'il continue sa saison, même si ici, il a eu
deux courses, c'est un peu chez plus compliqué. Oui, regarde, les sponsors mexicains se barrent de Sauber chez McLaren. Donc Gutiérrez, qui ne fait rien, ils peuvent le jeter. Donc ils peuvent récupérer Kobayashi.
Oui, et puis visiblement, Nico Hülkenberg va sans doute pas faire du Yozo parce que...
voilà. Ça change chaque année, lui, c'est...
Oui,
c'est un principe.
Rappelons qu'il n'a un contrat que d'un an chez Sauber, Hülkenberg.
Je te le dis, donc, globalement, dans trois ans, il est chez Ferrari.
Globalement, c'est vrai qu'il faut quand même rappeler que c'est très très dur de revenir en Formule 1. Enfin, on parle de Romain Grosjean, mais les pilotes qui sont revenus, faut vraiment qu'ils... Grosjean, il est revenu aussi parce qu'il y a un patron d'équipe qui a cru en lui, parce qu'il a un soutien financier, et parce que, qu'on aime ou pas Romain Grosjean, il y a quand même des arguments qui plaident pour lui et qui donnent envie de laisser une deuxième chance.
Bah, il est revenu, il a été champion GP2, je pense que voilà, c'est...
Voilà. Derrière, et encore, c'est-à-dire que le mec, il est quand même revenu, il a quand même dû repasser en auto-GP.
Ouais, mais c'est ça, il a refait une filière,
de l'endurance, enfin, voilà, il a quand même, ça a été un chemin de croix pour revenir. Aujourd'hui, revenir en Formule 1, moi, celui que je pense serait le plus susceptible de pouvoir revenir aujourd'hui en Formule 1, c'est Kobayashi. Mmh. Parce qu'il a montré des choses en Formule 1, parce qu'il est parti sur une bonne note, il est parti sur un podium. Enfin voilà, donc je pense qu'il y a ça qui fait que je dirais pas non totalement à Kobayashi. Maintenant, les autres...
Et puis en plus, on n'a pas l'impression que son départ soit fondamentalement lié à son niveau.
Non, c'est purement financier. Maintenant, est-ce qu'on pourrait pas envisager dans ce cas-là que on parle de deuxième écurie pour Honda, est-ce qu'on pourrait pas envisager qu'il motorise par exemple Sauber, le nom est sorti, parce que là Honda essaye de le placer comme un pilote japonais
peut-être,
même si je pense que Kobayashi est plus estampillé Toyota, mais
oui. Et tu me diras, par exemple, Toyota a pas pensé à lui pour l'endurance, et aujourd'hui c'est plutôt tourné vers Ferrari. Donc je pense que le lien avec Toyota aujourd'hui il n'existe plus.
Ouais, je pense qu'il
Mais après, c'est vrai que c'est pas inenvisageable. Si jamais il y a une Honda de développement et des essais à faire,
oui.
Avoir un pilote comme Kobayashi pour faire les essais, c'est pas inenvisageable. D'autant que je crois qu'il a fait des essais pour Bip à une époque. Donc voilà, il connaît les pneus, il connaît les fins.
Oui, il a une expérience quand même récente de la discipline. Donc, pour les anciens pilotes de fin qui n'y sont plus aujourd'hui, c'est, je pense, un des plus intéressants par rapport à Al-Ghursari. D'ailleurs, est-ce qu'il va pas revenir en 2014, lui, Al-Ghursari?
Oui, mais à Ibiza.
Mais voilà, c'est vrai qu'il pourrait être un bon choix pour développer la voiture.
Et enfin, dernière actu, c'est toi, Dino, qui l'a cité, c'est les essais jeunes pilotes qui seront à Silverstone du 17 au 19 juillet.
Ouais.
Parce que toutes les équipes y seront.
Normalement, oui, c'est une séance collective. Alors toutes les équipes, il faudra voir. Peut-être d'ici là, il y aura peut-être de l'eau qui aura coulé sous les ponts.
Mais, ouais, bah ouais.
Mais voilà, c'est le fameux Grand Prix de d'Europe élémentaire qui aura lieu à Silverstone, qui durera 3 jours avec que des jeunes pilotes entre l'Allemagne et la Hongrie. Voilà. C'est d'ailleurs le choix de Silverstone est assez étonnant pour moi, parce qu'on va aller à Silverstone, on va se déplacer au Nürburgring, et avant d'aller en Hongrie, on va revenir à Silverstone.
Pour la majorité des équipes, c'est pas gênant, Silverstone. C'est à côté.
Oui, non, c'est pas gênant, mais après, je trouve que ça aurait peut-être été intéressant d'aller justement sur un autre Grand Prix, enfin sur un autre circuit, pourquoi pas, justement profiter de l'occasion pour tester ce qui sera mis en place l'année prochaine, se mettre derrière le Nürburgring, faire 2 journées d'essai, refaire ça derrière la Hongrie, enfin voilà, peut-être des trucs dans ce genre-là qui auraient peut-être été intéressant à faire. Là, l'aller-retour à Silverstone me paraît un peu...
Ces essais-là ont quand même été programmés aussi avant que ils se mettent d'accord sur le retour des essais l'année prochaine, donc en plus Silverstone c'est quand même aussi un circuit qu'ils connaissent bien, donc nouveau, les bases sont pas loin, donc ramener des nouvelles pièces
Allez, dis ça à Sauber et Ferrari comme d'habitude, et Toro Rosso.
Ah, Toro Rosso, ils font emmener les pièces depuis Milton notamment le nouveau traction control.
Maintenant, le seul truc un peu plus étonnant éventuellement, c'est que les équipes se plaignent de tester en hiver dans des conditions de climatiques pas exceptionnelles. Pas convaincu qu'ils auront du bon temps en Angleterre.
Bah ouais. Donc globalement, de toute façon, en ce moment, on se demande où ils auront du beau temps.
Oui.
Ah bah en Belgique, aujourd'hui, il fait beau. Ils peuvent venir.
Ah, des essais à Spa. Oui, on vient à Spa, mais c'est juste pour faire des essais. On n'a pas d'autre vocation.
Mais en 2007, ils ont fait des essais à Francorchamps. Ah bon. Avant le Grand Prix, d'ailleurs.
Voilà.
C'était, je sais plus quel mois, c'était en juillet, je pense. Ils étaient venus rouler, je sais plus pour quelle raison, hein, mais...
Mais ce qui est intéressant aussi dans ces essais-là, ce qui est intéressant et ce qui est peut-être potentiellement inquiétant, c'est que du coup, ayant lieu au mois de juillet, ils n'auront pas lieu au mois de novembre.
Ah oui.
Et par conséquent, pas d'avant-goût des pneus pour l'année prochaine, pas d'occasion de tester les voitures l'année prochaine ou des nouveautés pour l'année prochaine. Enfin voilà. C'est surtout le plus inquiétant, c'est surtout côté pneus. C'est-à-dire, moi, je suis un peu surpris de voir des essais organisés à Silverstone au mois de juillet, qui théoriquement serviront à rien puisque, bip! Il changerait plus rien aux pneus que ce qui a été changé. Enfin, il n'irait pas plus loin que le changement qui avait été proposé.
Oui, qui sera pas si mortel. Donc.
Qui sera d'ailleurs pas non plus lors des deux Grands Prix suivants. Ce qui embête un peu Lotus, mais c'est pas grave. C'est comme quoi, il y a plein de trucs à dire si on se bip. Mais ouais, ce qui est le plus inquiétant, c'est que si ça avait eu lieu à la fin de l'année et une séance collective, ils auraient pu avoir un aperçu des pneus. Donc encore une fois, on est face à une décision des équipes qui est un peu bizarre, quoi. L'année.
Bah, ils voient sur le court terme, à mon avis. Enfin, c'est clairement.
Mais c'est la ça qui est toujours. Qui est mise... Voilà, c'est. Alors qu'ils se plaignent depuis des semaines du manque d'essais, du manque de connaissances des pneus et compagnie, ils se tirent une balle dans le pied en se privant de 3 journées d'essais, certes avec des jeunes, mais de 3 journées d'essais sur un circuit comme Abu Dhabi où là les conditions sont optimales et en fin de saison, donc avec des pneus vraiment proches de la spécification 2014. On va encore avoir des essais au Brésil ou aux États-Unis lors des essais libres 1, et en 2014 les mecs vont gueuler en disant oui mais on a essayé avec les pneus en essais libres 1, puis encore il pleuvait, ou alors on avait autre chose à faire. Donc voilà, on est toujours dans cette logique là quoi.
Ouais, c'est clair. Enfin, ici, ils vont profiter, c'est quasiment mi-saison, plus ou moins. Ils vont tester des nouveautés sur les voitures et c'est ça aussi qu'ils voient. C'est, à mon avis, c'est purement du plus court terme.
C'est un creux de 3 semaines avant la pause estivale. Donc, ouais, ça va permettre de d'essayer des pièces d'abord pour la Hongrie et plus probablement d'essayer des pièces et d'avoir des retours de la piste avant de faire des modifications pendant la fameuse trêve estivale.
Surveillée par la FIA.
Par GPS.
Avec des caméras thermiques, voir s'il y a de la lumière, on sait que c'est pas bon.
Très bien, messieurs, c'était tout pour les actualités cette semaine. Et c'est dingue, tu vois, même quand on veut pas en parler, on est obligé d'en parler un peu. C'est dingue.
C'est fou.
C'est fou. Et on va s'atteler au sondage de la semaine. Messieurs, avez-vous des inspirations cette semaine?
Pom pom pom.
Qui aimerait-vous voir mourir en forme de...
Non,
c'est la thématique de la semaine.
Non, pas ça.
Ouais, c'est-à-dire qu'il faut faire aussi bien que les précédents sondages, où on était quand même très en forme.
Oui, c'est vrai que là, malheureusement, cette semaine, en termes d'accu...
Parce que quel pilote aimeriez-vous revoir en Formule 1 a déjà fait?
On pourrait faire un truc, puisque Honda va construire sa propre voiture. Quelle marque aimeriez-vous voir construire sa propre Formule 1?
Et tu dis juste marque.
Marque, constructeur.
Tu dis pas que, voilà, non.
Ça on dépend, est d'accord. On peut.
Tu vas utiliser le mot marque. Parce que du coup, cette question prend un autre sens. C'est soit constructeur,
ah
soit
oui, c'est
marque.
Ça. Là, potentiellement, les réponses sont beaucoup plus.
C'est comme vous voulez, les gars.
Moi, je veux bien marque.
Vous voulez marque?
Ouais, marque, ça peut donner des idées, des propositions de réponses plus sympathiques.
Déjà, Durex. Durex F1, moi.
Donc, on part, donc, sur un intitulé. Quelle marque souhaiteriez-vous voir construire une Formule 1?
Est-ce qu'on peut considérer que le SAV est une marque?
On pourrait mettre ça.
Oui, le SAV est une
parce
marque.
Parce que ça rejoindrait un peu
le SAV de la F1.
Une des discussions précédentes.
Je persiste sur Durex.
J'ai mis Durex.
Ikea?
Ah bah oui.
Ouais.
Là, quand tu fais un changement, en fait, t'as les pneus, il faut juste que tu montes la voiture.
Tefal, ils sont bons dans l'antidérapant quand même, Tefal.
Oui, c'est vrai. Pourrais-tu préciser sur Ikea, Ikea, à condition que ce soit New Way, lise le guide de montage.
Ouais, ou qui écrive le guide de montage.
Oui, voilà.
Très bien.
Haribo.
Parce que c'est beau la vie.
Voilà. La FOM. Moi, j'aimerais bien les voir construire une écurie un jour.
Une voiture, juste une voiture.
Oui, voilà, juste une voiture.
Nous sommes à 6.
Ah, y a pas Jenson Button et Lewis Hamilton que ça à une époque avec la McLaren?
Oui, mais ils ne sont pas une marque.
Ah oui, c'est vrai.
Mince. Ce sont des gens.
Enfin, Lewis, pas encore, ça va venir, oui. Mais... Parce que sinon, dans ce cas-là, tu peux dire Roscoe, tu vois.
Non, c'est bon. Roscoe n'est pas
mais
encore une marque.
Mais ce n'est pas encore une marque, parce que... C'est...
Bip. Ah oui,
tu notes comme ça, bip.
Bip, 3 petits points, voilà, comme ça.
Voilà.
Si vous êtes comme ça, on saura ceux qui ont écouté l'émission ou pas.
Après les équipes qui construisent leurs pneus, les pneus qui construisent des F1, ça peut être sympa.
David Beckham.
David Beckham est une marque, on est tous
ouais.
D'accord.
Ouais, totalement, ouais. C'est pour ça que je faisais le... Enfin, je parlais d'Hamilton, parce qu'il est managé par...
Ouais, par IMG, c'est ça. Non, c'est même IMG? Pas, c'est...
Non, IMG, c'était Kovalainen.
Ouais.
Hamilton, je sais plus qui c'est, mais enfin bref.
C'est Simon Fuller.
Il nous reste deux choix.
Deux choix. Findus?
Ah, parce qu'il y a des chevaux dans la voiture, c'est pour ça?
Voilà. Quand il s'agit de faire un truc avec des chevaux dedans...
Il en manque oui. Une, alors, c'est ça. Microsoft, une défense zonée qui pourra pas rouler sur tous les circuits.
Alors, je vais mettre Microsoft avec un Kinect intégré. Avec un Kinect obligatoire.
Avec une connexion internet.
Non, juste un Kinect obligatoire, ouais, non, mets... c'est bon, je pense que les gens vont comprendre.
Ouais, ou Microsoft, mais pas avec le système de... Comment ça s'appelait, le... la télémétrie FIA qui implique une connexion obligatoire.
Non, avec un Kinect, c'est pas mal. Donc, ça nous donne...
Ils appelleraient ça la Formula One.
Ouais, avec un Kinect à la place du volant.
Quelle marque souhaiteriez-vous voir construire une Formule 1 ? Durex, le SAV de la F1, Iker, à condition que ce soit Niue qui écrive la notice, Tefal, Haribo, la FOM, Bip, David Beckham, Findus ou bien Microsoft avec un Kinect obligatoire.
On arrive quand même toujours à faire des sondages barrés, même quand on n'est pas inspiré.
Ah, cette année, on est très en forme.
Moi, je pense qu'il y a des favoris. Il y a vraiment des favoris dans celui-là.
Oui, oui.
Il y a des...
Moi, j'aime beaucoup Bip, mais bon.
Je vais être honnête, LifeWeb, le SAV de la F1 et Bip, à mon avis, on verra, mais...
À Microsoft, si on a des geeks dans nos auditeurs, ça peut...
Ouais, ça peut passer aussi, c'est vrai.
Ça peut les faire rire aussi.
On saura si nos auditeurs sont des gros faillots. Si jamais il y a 95% de SAV de la F1, c'est que vous êtes tous des gros faillots.
La Formula One de Microsoft. C'est tellement normal, tellement logique. Passons aux citations, messieurs.
Ah, moi j'en ai deux.
Non, j'en ai une.
Je suis obligé de citer les deux, par contre.
Bon, je vais citer la mienne. C'est une citation de Jenson Button. Je n'ai jamais été aussi heureux de sortir d'une voiture. C'était à la sortie du Grand Prix du Canada. Et pourtant, il en a roulé dans des voitures de merde.
C'est ça, quoi. Les deux dernières Honda.
Elle est belle, la McLaren.
Mm-hmm.
Ou alors, Jenson a la même mémoire courte. On sait pas.
Oui, c'est ça.
C'est peut-être l'âge, hein.
Ouais, ou c'est la McLaren.
C'est vieux.
Jenson qui a quand même dit que on a voilà que fallait pas enterrer Lewis, que quand Lewis sera à son rythme de croisière, il sera à son rythme de croisière.
Bon, bah je vais chercher une autre citation.
Ah, non mais je te la laisse.
C'est une forme de ta gueule là, hein, en même temps.
Ah, faut que je pense à lancer.
C'est vrai, il reste plus beaucoup de temps.
Donc je te laisse chercher une autre citation. Pendant ce temps-là, je vais faire mes citations. Parce qu'il y en a deux, je suis obligé de faire les deux. Vous comprendrez pourquoi en écoutant. La première citation, c'est une citation de Nir Barkat, qui est le maire de Jérusalem, qui déclare « Jérusalem est une ville ouverte à tous. Il est important d'envoyer un message de paix. Nous espérons voir les juifs et musulmans se tenir côte à côte pour assister à cette manifestation. Puisqu'a eu lieu un roadshow pour la paix avec plusieurs marques, on a cité principalement Ferrari en omettant que Marussia également faisait partie de l'opération. Puisque c'est financé, je crois, par un consortium russe ou...
Et est-ce qu'il y avait McLaren et Red Bull? Parce que ça, pour agir pour la paix, ça serait bien. Ferrari, Red Bull et McLaren dans un même truc.
Avec Mercedes. Donc voilà, c'est un roadshow qui a eu lieu, une manifestation qui a eu lieu. Alors c'est pour la paix, mais c'était quand même payant, il faut le dire. Voilà. Et malheureusement, comme toujours, quand on parle du Moyen-Orient et de cette région-là, plus particulièrement dans le Moyen-Orient, il y a des avis contrastés, puisque Khalid Kedwa, qui est le président de l'Automobile Club palestinien, parle lui d'un prolongement de la guerre d'occupation israélienne au cœur de la ville sainte. Avec cet événement sportif, les organisateurs veulent faire croire que tout va bien à Jérusalem. Et effectivement, on est là dans le cœur du problème et voilà, dans les questions qui étaient celles du Bahreïn et compagnie, voilà, ou de la Chine, on est toujours dans l'orchestration d'un événement sportif qui se veut avec un message pacifique, mais qui effectivement peut être interprété aussi comme un moyen de masquer certaines vérités ou de montrer une autre image que celle qu'on a vraiment. Voilà, c'est un discours qu'on avait sur le Bahreïn. Pourquoi ne pas le tenir par exemple aussi sur ce roadshow à Jérusalem où, rappelons, on est quand même en état de siège régulier avec des attentats, avec des attaques, des missiles, surtout proche de la Syrie, proche de grands conflits, donc voilà.
Ce que j'allais dire, ça fait longtemps que ça n'a plus été bien à Jérusalem. Hein.
Oui, non.
Bah oui. Est-ce que ça a déjà été un jour bien à Jérusalem?
C'était un dimanche.
Bah non, mais c'est, voilà, puis j'ai l'impression que ça fait des années que Jérusalem, c'est un peu le bordel, donc... Mais c'est vrai que moi, j'avais pas vu l'info sur le roadshow, etc., donc...
Mais c'est ces trucs, on est toujours... C'est vrai que c'est magnifique, enfin, Jérusalem, c'est une belle ville, Jérusalem. En plus, c'est une belle ville au sens où c'est une ville patrimoniale. Il y a énormément de ruines, de monuments, donc...
Ouais, c'est historique,
n'importe où tu fais passer une Formule 1, c'est magnifique. Il y avait un vrai tracé de 2,8 km, je crois. Enfin, voilà, c'était pas juste une avenue dans laquelle les voitures roulaient. Enfin,
c'est un bel événement qui a été organisé. Maintenant, c'est vrai que il y a aussi une portée politique. On peut pas passer à côté. Encore une fois, on peut pas passer à côté de là. Et la Ferrari, par exemple, mine de rien, on voit malgré tout. Qu'il le veuille ou non, on voit malgré tout un message politique qui va faire des partisans et va faire des opposants.
Ben, tu as trouvé ta citation ?
Oui, moi c'est une citation de Xavier Pujolard de chez Williams. Ouais, enfin, il va trouver autre chose.
C'est bien de le mettre en valeur, Xavier Pujolard. Monsieur DRS.
Je dirais que Pastor a un style un petit peu particulier, alors que celui de Valtteri est un peu plus polyvalent, ce qui lui permet de mieux s'adapter aux conditions du moment. C'est vrai que Maldonado, on le sent, enfin la voiture à Williams, c'est pas bonne. Et c'est vrai que Pastor, on le sent un peu plus en difficulté par rapport à Bottas qui ne brille pas au Canada, où on a beaucoup parlé de lui, parce que effectivement, sa troisième place...
Il avait des réglages, voilà.
Voilà. Oui, il avait clairement des réglages adaptés plus aux conditions et ce genre de choses. Et puis, de toute façon, c'est des conditions dans lesquelles un pilote peut toujours tirer un
C'était
avantage.
C'était quand même un énorme coup de poker, hein, parce que ça faisait quand même des jours où on disait « Bon, d'accord, il va pleuvoir vendredi ou samedi, mais bon, pour la course, n'y comptez pas, il fera beau. »
Bah, de toute façon, je pense que s'il faisait, il roulait dans des conditions normales en qualif, c'était nulle part. Donc c'était un coup de poker.
Mais c'est bien, il s'est fait voir.
Je pense qu'ils auraient pas été moins bien en course s'ils avaient eu des réglages secs. Quoi. Donc globalement, voilà, c'est vrai que il fait pas le figure en Bottas par rapport à Maldonado qui.
Il a un style particulier.
Qui est moins malléable. Oui, en gros, dis-le que c'est un bourrin qui roule tout le temps à fond. Puis...
Et je pense que Maldonado a plus besoin d'être agressif avec sa voiture. C'est quelqu'un, je pense, qui attaque plus, qui la maltraite un peu.
Xavier Pujolard, c'est de l'ancien responsable course de Pastor Maldonado, qui avait pour coutume de nous révéler sur Twitter les zones DRS avant même la FIA. C'était sa grande habitude l'année dernière. Et qui maintenant, oui, il est ingénieur en chef, c'est ça?
Ouais, ingénieur de course en chef chez Williams.
Ouais, faut qu'il soit plus agressif, Valtteri. Pourtant, il a un profil de bûcheron finlandais, mais...
C'est vrai que
quand on l'a vu avec les deux autres...
Et il a pas l'air beaucoup très sympathique non plus, tu vois. Il a le sourire de là-bas aussi, tu vois. Il a pas eu une vie facile,
le garçon. Le sourire de là-bas, le sourire du Nord. Oui, parce que nous on appelle ça un sourire. Enfin, eux ils appellent
le
ça un sourire.
Du nord, voilà, c'est.
Ouais, là où ils avaient quand même 30 degrés il y a 3 semaines, hein, pendant qu'on se pelait les miches.
Mais c'est vrai, hein, moi quand tu le vois, tu te dis, mais comment il fait pour. Comment il passe ses épaules dans la voiture? C'est juste.
Ouais, c'est. Ah, puis là sincèrement, au Canada, il était à côté de Vettel et de Hamilton qui sont plutôt des petits gabarits. Le contraste, il était saisissant, quoi. Mais c'est celui qui avait l'air le moins sûr, le plus fragile, en fait.
Parce que je me rappelle quand je l'ai vu, j'ai dit, bon, Kimi, bon, il est déjà bien bâti. Hein, un peu trapu de ça, mais lui c'est impressionnant.
Mais Kimi, c'est surtout sa combinaison qui lui réagit pas. Non mais sincèrement, je trouve qu'il a un côté côté empâté à cause de sa combinaison. Ça fait un peu comme Villeneuve. Je me demande s'il met pas des combinaisons un peu plus
peut-être
un peu plus larges que sa taille.
Il fait pareil
pour l'aération. Mais alors, non, ça lui donne un côté.
Mais c'était pas le cas quand il était chez Ferrari, il les portait plus serrés les.
Ouais, mais tu sais maintenant. Faut prévoir de la place pour les vapeurs d'alcool.
Ces dernières saisons chez Ferrari, je pense qu'il les mettait déjà plus larges. Je pense qu'en 2009, quand on voit des photos de sa victoire à Francorchamps.
Sur Kimi, il aime bien tout ce qui est large. Les casquettes larges, les combinaisons larges. Il y a que les phrases, il aime pas larges. Les phrases, il les aime étroites.
Et je me demande si c'est pas pour une meilleure protection par rapport aux incendies ou genre de trucs en cas de.
Ouais, c'est vrai que lui est plus inflammable que d'autres.
C'est un fan de clics, ça. Retenez bien.
Mais c'est pour ça qu'on l'aime.
Je voudrais demander à Villeneuve, hein, Jacques, si nous écoute, viens nous expliquer dans le SAV pourquoi porter des combinaisons larges.
Ah, Jacques, il fera une course de NASCAR le week-end prochain.
Ouais.
Enfin, ce week-end.
La Sprint Cup, je sais pas. Ouais, j'ai vu l'info passer sur Facebook.
Une des deux courses routières de NASCAR. Oui, ça existe.
une des seules courses où il peut trouver des sponsors.
Ouais, parce que ça fait quelques années qu'il essaye de faire sa place.
On a même parlé de lui pour racheter une équipe de NASCAR. Parce que j'ai jamais fait.
On va passer au répondeur.
Le service après-vente de la F1 vous présente le répondeur du SAV. Vous avez une question ? Nous y répondons.
Bientôt, on va la changer, cette rubrique. Le nom de cette rubrique.
Ouais, ce sera
la question d'Adelin.
La question d'Adelin.
Donc, cette semaine, comme d'habitude, Adelin t'a posé une question.
Salut à tous. Cette semaine, le débat est pour ou pas pour la prolongation de Vettel chez Red Bull. À la prochaine.
Ah, la belle question, oui. Adelin. Merci, Adelin.
J'étais pas au courant que Vettel avait renouvelé son contrat.
Pour deux ans, enfin deux ans de plus par rapport à son contrat qui allait au moins jusqu'à 2014.
C'est deux ou c'est un an?
Ça s'est arrêté 2014 et ça va jusqu'en 2015.
D'accord. Il me semblait que c'était 2016, donc oui, 2015, un an.
Non, 2015, ouais. Fin 2015. Bah, c'est pas à ce moment-là qu'Alonso parle de chez Ferrari?
Alors, le contrat d'Alonso, on avait dit que c'était 2016 au début, mais il se murmure que ce serait en fait un contrat jusqu'à fin 2015 avec une option pour 2016. Mm.
Ça a pas calmé les rumeurs, ça.
De toute façon, il a tellement, de toute façon, il a tellement d'ascendance sur Ferrari que quand il partira, ils vont tous se suicider, donc ça ne sert à rien.
Non, mais d'ici là, il y aura un cartouche champion du monde qui arrivera dans l'écurie.
Il pourra travailler avec Bob l'éponge, qui était là au Canada.
Que quintuple? T'es optimiste, toi. Que quintuple?
Oh, optimiste, ouais, pas si bon que ça, hein. S'il en rate un sur les trois prochaines saisons, enfin, celle-ci incluse.
Oui.
Ouais, c'est vrai, il faudrait qu'il en rate qu'un, donc c'est vrai.
Ça se trouve, c'est Alonso qui sera quintuple champion en 2015.
J'y crois déjà, moi, là, quand même.
C'est en Alonso ou en Ferrari, tu crois, moi?
Non, mais chez Ferrari, en fait, il faudrait qu'ils arrivent à mettre tout ensemble, tu vois. L'an passé, ils avaient un Alonso au top de sa forme, avec une mauvaise voiture, et ici, ils ont une bonne voiture et ils ont une équipe au top.
J'aime bien. C'est, on dit pas ils ont Alonso qui est pas au top, mais ils ont une équipe.
Non,
pas
mais
au top.
Non, en fait, j'ai mal formulé au départ. J'ai envie de dire qu'ils avaient une mauvaise voiture et ils arrivent à en tirer la quintessence, et cette année, ils ont une bonne voiture et ils font des couacs. La bonne formulation, c'est ça. C'est la garde au montage, celle-là.
Montage? Il n'y a pas de montage dans cette mission.
Mais donc, sinon, sur Vettel, est-ce qu'il a bien fait ou pas?
Est-ce qu'il avait d'autres choix?
Ah, c'est ça aussi. En plus, enfin, dans l'absolu, renouvelle que d'un an, donc c'est pas non plus le renouvellement. Parce que le précédent renouvellement, c'était plusieurs saisons, hein, c'était 2-3 ans, il me semble.
Et puis, je sais plus, j'ai plus. Avec la voiture qu'il a,
Bah, il est quand même. On va pas dire qu'il va avoir un quatrième titre, mais il est de toute façon clairement, il sera clairement candidat jusque loin dans la saison pour un quatrième titre. Donc, on change pas une équipe.
Et même s'il gagne pas le titre, c'est pas non plus.
Bah, de toute façon, pour le moment, ça reste une bonne saison. Il est en tête des championnats et bon, même s'il le perdait, effectivement, sa saison n'aurait pas été mauvaise.
Il faut quand même voir si Red Bull va pas être exclu du championnat.
Ah oui.
Red Bull et Mercedes pourraient être exclus. D'ici à ce qu'on découvre un système illégal sur la McLaren, parce qu'on sait jamais, ça pourrait être un risque pour Ferrari. Moi, je vous dis, Ferrari, Alonso champion dès le Grand Prix de France.
Ah, y a pas de Grand Prix de France.
Là, juste avant, alors. Non, mais évidemment, enfin, sincèrement, Adelin pose la question, et c'est vrai qu'il a raison de poser la question. C'est surtout, c'est de savoir est-ce qu'il a raison, entre guillemets, de choisir, même si je pense pas que c'est un choix, de choisir la performance et le potentiel quatrième et cinquième et voire sixième titre, en comptant qu'il gagne celui de cette année, plutôt qu'un challenge à la Ferrari. Oui, vouloir un autre challenge.
Pour le coup, c'est tôt, parce qu'il aurait pu attendre et voir comment ça se goupille dans les autres équipes pour essayer d'aller chercher peut-être une autre équipe. C'est qu'il a quand même
Ça dépend, parce que s'il vise Ferrari, il sait très bien qu'avant 2016.
Non, mais ce que je veux dire, il aurait pu attendre 2014, la fin 2014, pour renouveler avec Red Bull, ne voyant que les choses ne s'ouvrent pas, par exemple, côté de Ferrari.
Oui, mais le truc, c'est que peut-être que en signant maintenant, c'est plus facile pour lui d'avoir un contrat d'un an pour 2015 que si signé en 2014, peut-être que Red Bull aurait été plus réticente à lui faire signer un contrat de seulement un an. Là, l'avantage, c'est que il va donc s'arrêter en 2015. Oh, comme par hasard, c'est la fin du contrat de Lewis Hamilton chez Mercedes. Donc, ça peut lui ouvrir sa piste-là déjà. On sait que Mercedes ne dirait pas non à Vettel. Ça peut aussi éventuellement lui ouvrir la porte de Ferrari. Ça peut aussi lui ouvrir la porte d'une autre écurie, pourquoi pas McLaren, pourquoi pas faut pas oublier, c'est qu'il y a McLaren Honda en 2015. Si McLaren Honda en 2015 ça cartonne, que Button annonce son départ, parce que Button c'est pareil, son contrat il est pas non plus à rallonge, je crois que c'est fin 2014 ou 2015. Donc potentiellement, là où il était malin, c'est que il a vu que le marché des transferts est plus ou moins fermé pour des pilotes de sa trempe, plus ou moins fermé jusqu'en 2015. Donc c'est que c'est en 2015 qu'il faudra sans doute qu'il aura le choix, avec pour le coup des vraies alternatives, peut-être soit Mercedes, soit McLaren Honda si la voiture est une tuerie, l'association cartonne, soit Ferrari, soit Lotus si Lotus continue sur sa lancée, soit rester chez Red Bull.
À mon avis, chez McLaren, je pense que Button, c'est fin 2014. Parce que quand ils ont annoncé le partenariat avec Honda, ils expliquaient qu'ils espéraient pouvoir compter sur Button pour cette nouvelle aventure. Donc, à mon avis, Button, c'est fin 2014. Bon, il y a sûrement, ça se trouve, des options, des clauses, des machins, comme d'habitude, quoi. Donc,
Mais après, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est difficile aussi pour lui d'aller dans une autre. On aimerait qu'il prenne un pari. Maintenant, il faut aussi regarder concrètement qu'est-ce qui est possible. Je pense sincèrement aujourd'hui que peut-être qu'il dirait pas non à Ferrari. Le problème, c'est que Ferrari, est-ce que la porte lui est vraiment ouverte dans les conditions que lui veut? Je pense pas. Chez Mercedes, la porte est aussi plus ou moins fermée, parce que Rosberg a un contrat, je crois, jusqu'à fin 2014.
c'est vrai que à un moment donné, il faut se faire un choix, et il a fait le choix de la performance. Pour moi, il a tout à fait raison. Aujourd'hui, la meilleure équipe avec laquelle signer, ça serait, enfin voilà, c'est quand même énorme, qu'ils disent, oh non, en fait, je signe pas avec Red Bull, j'attends la fin de mon contrat, et je verrai où je vais. Voilà.
Oui, puis de toute façon, il est encore jeune, même en restant chez Red Bull jusqu'en 2015, il peut encore,
voilà, oui,
il a encore de belles années
oui,
derrière.
Oui, mais voilà, il a dit qu'il ferait peut-être plus que 5 ans, donc du coup, ça fait 3 ans là, donc après, ça fera qu'un contrat de 2 ans. Il va falloir qu'il soit performant pour gagner 2 titres avec Ferrari en 2 ans.
Si tu regardes les citations d'Alonso d'il y a quelques années, il devrait non plus être en Formule 1, donc
Ou Raikkonen, ça devait être fini, voilà.
Ça, ça veut rien dire.
Mais Raikkonen, c'est pas déjà fini.
Donc globalement, ici, on peut dire que c'est un pour.
Bah, c'est ni pour ni contre, en fait, dans l'absolu. Enfin,
c'est une évidence, en fait.
Sincèrement, c'est, ouais, voilà. Alors,
tout le pataquès qu'on fait autour de ça,
ça m'a pas surpris, moi, l'annonce.
Bah, voilà, moi, tous les, alors après, je sais pas, peut-être aussi parce qu'il y a vraiment rien à se mettre tout là-dedans en ce moment, mais, faut dire aussi que le nombre d'articles qu'on a pu voir sur Christian Horner, qui devenait membre de l'ordre de l'Empire britannique, voilà, c'est vraiment que tu te dis, il y a des jours, les mecs, ils ont faim. et là, visiblement, sans contrat de Vettel, enfin voilà, ça fait pas mal de temps que même les rumeurs, enfin, elles sont plus ou moins calmées. Il y avait plus des déclarations comme quoi Mercedes avait essayé de l'avoir avant Hamilton. Donc du coup, c'était devenu, bah, s'ils ont essayé de l'avoir, ils vont peut-être essayer de l'avoir l'année prochaine. Ou enfin, le choix le plus logique, quand même, ça reste Red Bull et c'est l'évidence même, quoi. Donc y a pas une grande surprise à voir Red Bull prolonger. Et même pour Red Bull, c'est important parce qu'on pense à Vettel. Est-ce que Vettel a raison de prolonger chez Red Bull? Est-ce que Red Bull a raison de prolonger Vettel? Voilà. Pour le moment, y a pas de succession non plus pour Red Bull. Donc ça, faut regarder aussi. C'est quand même une équipe qui fonctionne avec cette image de pilote fait maison et compagnie. Pour moment, il n'y a rien. Il y a Kimi Raikkonen qui va peut-être rentrer dans la balance l'année prochaine, qui a déjà l'image Red Bull, parce qu'il a été sponsorisé par Red Bull ces dernières années, donc qui est déjà un peu un produit Red Bull, mais la succession de Vettel, elle n'est pas encore faite, donc en termes d'image...
Mais ça, au niveau des successions, ça va être de façon un peu générale, parce que on tourne quand même toujours un peu autour des mêmes pilotes, des mêmes top pilotes.
Hein. Oui.
Depuis l'arrivée de Vettel, qui a été le dernier, et de Lewis aussi, le groupe des top pilotes ne bouge pas tant que ça. Et les nouveaux pilotes qui arrivent, on n'est pas certain qu'ils arrivent à avoir le même niveau.
Mais c'est vrai qu'on est arrivé, on a un peu le contre-coup, je pense, de l'ère Schumacher. C'est-à-dire qu'on est arrivé, quand Schumacher est parti, on pensait avoir un vide. Et en fait, on a vu arriver une génération de jeunes pilotes qui sont très vite arrivés à maturité. Aussi, peut-être parce qu'il y en avait tellement qui s'étaient cassés les dents qu'on avait vraiment misé sur les vrais talents et qu'on les avait laissés émerger. Là, aujourd'hui, c'est vrai que, et je crois que c'est d'ailleurs un patron qui a déclaré ça cette semaine, on a un peu plus de mal à voir qui sont les talents de demain. Là où Hamilton, Vettel, on les voyait venir, là, c'est vrai qu'on a un peu plus de mal. Nous, en France, on va voir Bianchi, par exemple. Et bon, Bianchi, sincèrement, c'est pas non plus depuis des années le mec qu'on voit top pilote en Formule 1 dans les années à venir. On lui voit un potentiel, le potentiel de faire de la F1, hein, le potentiel d'un champion du monde, on le voit pas encore. Et là, faut vraiment aller regarder très très bas les Nick De Vries et compagnie pour voir les peut-être futurs grands de demain.
C'est Toffel Van Dorn.
C'est quand même prendre, là encore, c'est prendre des gros paris sur l'avenir, quoi.
Mais même Red Bull a raison de vouloir renouveler le contrat de Vettel maintenant, tant qu'ils sont avec une voiture performante.
Oui.
Parce que, de nouveau, eux savent pas non plus à quel niveau de performance ils seront en 2014.
Mais c'est même plus dans l'intérêt de Red Bull, vraiment, de prolonger. Parce que Vettel, il gagne rien, il perd rien. Parce que, en l'état, soit il reste chez Red Bull avec, admettons, une mauvaise voiture, on sait jamais, soit il va dans une autre équipe, mais sans forcément avoir les mêmes conditions, le même environnement que ce qu'il peut avoir aujourd'hui chez Red Bull. Et puis peut-être une concurrence beaucoup plus forte. Là, pour Red Bull, bah, c'est soit on a Vettel, soit, entre guillemets, derrière, on n'a pas grand-chose. Kimi Raikkonen, c'est bien gentil, ça va faire 1 an, 2 ans,
oui,
peut-être voilà, 3 ans. Et donc Kimi Raikkonen, il est plus vers la fin de sa carrière. Donc
pas miser soit sur l'avenir quoi, pour le avec lui. D'autant plus qu'il est capable de claquer la porte du jour au lendemain, Raikkonen. Hein, donc déjà qu'il a plus... Enfin, le plus gros de sa carrière est derrière lui, ça c'est clair. En plus, voilà, il le dit lui-même, si un jour je m'emmerde, je me casse. Quoi.
Oui, parce que de toute façon, même s'il part chez Red Bull, je le vois pas, il va pas non plus faire 40 équipes, hein. Vu le reste de carrière qui lui reste, Red Bull pourrait être sa dernière équipe. Ça serait pas étonnant.
C'est quand même un mec qui aura mis sur son palmarès, voilà, quand même, Sauber, sans faire un jour à Sauber.
Oui, oui.
Mais McLaren, Ferrari, Lotus, et là, peut-être Red Bull, peut-être Mercedes.
On a parlé de lui chez Williams.
T'as heureusement qu'il y est pas allé.
Ouais. Ah bah là, il serait déjà reparti, hein. 2012, il aurait fait saison, mais ici, 2013.
Enfin, quoi que, peut-être que, avec, l'argent et la dynamique qu'il aurait généré l'an dernier avec une bonne voiture, peut-être que cette année, la voiture aurait été meilleure.
Mm-hmm.
Ouais. Bon, on sait très bien que la victoire de Maldonado n'a pas généré grand chose, mais.
Ouais, puis il aurait fallu le payer, le Raikkonen aussi. Hein.
Oui, mais tu mettais Maldonado à côté.
Mais ils ont Maldonado, ils sont dans la merde. Donc, tu vois, si tu rajoutes Raikkonen par-dessus...
Ils sont quand même bizarres chez Williams. Le Finlandais qu'ils ont choisi, c'est Bottas. Bon, les gars, on a le choix. On a Raikkonen, on a Bottas. Ah, Bottas,
c'est la pire.
Non, sérieux, Franck, Bottas, c'est... Moi, je pense que le choix, il est évident. Et après, le mec, il se fait virer par Bernie Ecclestone. M'étonne.
Donc voilà, vous avez d'autres sujets que vous voulez aborder dans ce répondeur cette semaine?
tu veux qu'on se pose des questions dans le répondeur, tu me dis? Non, personnellement, peut-être la prochaine fois, je sais pas. La prochaine fois que je ne participe pas à un mag, je vous enverrai une question, promis.
Par audio, en faisant une fausse voix?
Oui, peut-être, tiens, ouais.
Très bien, dans ce cas, on va vous rappeler que si vous souhaitez nous poser une question au répondeur, qui, on vous le rappelle, n'est pas limité à Adelin, hein. Adelin n'est pas le propriétaire du répondeur. Hein.
Il est comme lui, il est comme le SAV, c'est gratuit, c'est la famille, c'est en couleur, mais c'est surtout gratuit, vous avez le droit de vous en servir.
Vous avez deux possibilités, soit l'adresse mail répondeur@savf1.fr ou bien le message via le site savf1.fr. Nous laissez votre belle voix. On vous rappelle aussi qu'il y a le concours top à position.
Avec la question d'Adelin.
Avec une question d'Adelin. Le pire, c'est qu'en fait, il y avait eu une deuxième question. Mais il y a eu un problème de mail.
Oui. Il essayerait pas de devenir chroniqueur, Adelin, des fois, tu vois. Je...
On a déjà
un
mail.
Pas un gros appel du pied, quand même.
Ah, ça peut se négocier. Alors, en fait, j'y pense, Ben. Je suis désolé, c'est la fin de l'émission. Ta gueule.
C'est
moi,
vrai.
Je vais jamais réussir à le caser.
Donc, on vous rappelle, il y a une question au concours. Cette question, c'est quel a été le dauphin de Jacques Villeneuve l'année de son titre? Attention, il y a peut-être un piège. Je dis ça, je dis rien.
Ce n'est pas Flipper.
Ce n'est pas Flipper. On vous rappelle, si vous souhaitez participer à l'émission...
Qu'est-ce qu'on rappelle comme chose? J'ai dit, il se prend pour François Hollande. Il commence toutes ses phrases de la même manière. On vous
mais
rappelle.
Oui, mais parce qu'on leur rappelle.
On vous rappelle.
Si vous...
J'ai pas fait des variantes.
Si vous souhaitez participer à une émission du SAV après course, l'adresse c'est contact@savf1.fr. Même si...
Oui, là, il y a de la place, à partir du Grand Prix de Grande-Bretagne.
Oui, parce qu'on a eu un message sur Twitter, hein, même si vous avez participé cette année, après tout, n'hésitez pas. C'est juste que,
vous
n'êtes pas prioritaire par rapport à un nouveau. C'est tout. Mais vous pouvez proposer votre candidature, il n'y a pas de souci.
Alors profitez-en, surtout la prochaine émission pourrait être intéressante pour vous, puisque même c'est raison de plus de ne pas hésiter, même si vous avez déjà participé à postuler, puisque je ne serai pas dans l'émission, je serai absent et je serai remplacé par un des chroniqueurs.
On sait pas qui, c'est pour ça qu'on vous dit pas le nom.
Vous ferez un SAV un peu spécial avec un nouveau visage, donc
un visage
que vous connaissez déjà, mais avec des gens avec lesquels vous ne faites pas d'émission d'habitude, donc ça peut être l'occasion pour vous de saisir cette émission au vol. On sait que c'est un garçon ou une fille. On attend l'échographie avec Shinji et on vous dira.
On vous rappelle comme d'habitude que le SAV de la F1, c'est sur iTunes, c'est sur la chaîne Alpha de Pod Radio, c'est sur... Oui, c'est long, 5 minutes.
Ce petit blanc,
on a reçu un message écrit.
Ben nous a envoyé un petit message pour lui dire « Oh, c'est long, 5 minutes !»
C'est sur Podcast France, c'est sur Facebook, c'est sur Twitter. Attention, il y a un compte @SAVF1, c'est pas le vrai, ça n'existe pas le compte @SAVF1. Par contre, non,
ah bon
il y a un compte @SAVF1, tu le tapes, mais je crois que le type a laissé un message.
Ouais, espèce de racaille, on va descendre chez toi, on va te péter ta gueule. Il nous a piqué.
Non, non,
hashtag.
Pas le hashtag. Le compte.
Oui, bah c'est pareil, parce que je sais pas faire la différence et tout, parce que voilà, j'étais élevé dans une maison. Et en fait, c'est pas la différence entre les hashtags et les arrobas, voilà. J'allais dire entre les hashtags et les dièses.
Voilà. Mais par contre, il y a nos différents comptes Twitter que vous pouvez retrouver sur la page d'accueil du savf1.fr, donc avec tous nos comptes où on parle de F1 et de plein d'autres choses en fait. D'ailleurs, pas beaucoup de F1, j'y pense souvent.
Non.
Ça dépend.
Enfin, pas beaucoup de manière générale pour moi en ce moment, mais. Mes statistiques sur Twitter sont en train de tomber, mais de façon vertigineuse.
Déjà, il y a un truc qui est bien, c'est que tu ne mets plus en doublon les messages de fan F1.
Ah bon? Ah, pourtant, normalement, ça, j'ai rien fait pour.
Mais c'est pas plus mal, parce que tu sais que les gens qui suivent la F1, qui te suivent, souvent suivent fan F1. Donc, on a un peu rien à foutre d'avoir les messages en double.
Oui, mais comme ça, vous...
Parce qu'on en a rien à foutre d'avoir les messages en double, c'est une connerie.
Mais sinon, on en profite aussi pour mentionner le site Fantasy F1 de l'ami Fab. C'est fantasyf1.forumactif.com ou .fr. Alors, de toute façon, si vous cherchez Fantasy F1, c'est
Et si vous vous inscrivez, il
ne
faut pas mettre...
mettez pas Fab en... Pensez à Bijou, pensez
non,
à Chigi.
Oui, pensez à Papi moi, Foot. Pensez à moi, parce que moi, je m'en fous des transferts. Donc, ça sera des transferts perdus. Ça foutra les nerfs à Papi Foot, à Fab, à Dino, qui vont dire, mais Chigi, les transferts, c'est pour les faibles.
Ah, pourquoi j'ai pas mis un ta gueule?
Je dis ça,
Ben,
mais
reviens.
Un jour, j'en ferai.
Bonsoir.
Par contre, sur Twitter, il y a un hashtag SAVF1. Il existe.
Oui. Un maudit S qu'on dit, mais c'est pas grave.
Oui, c'est vrai. Il est belge, rappelez-vous.
Ah non, c'est, non, c'est français, ça, le maudit S.
Sinon,
c'est, vous
c'est
ça.
Aussi un croisillon.
Oui, non, nous, ah, nous, ouais. on le pond, et vous, vous l'utilisez.
Non, ah non, absolument pas.
Alors, c'est les Québécois, alors, qui l'utilisent.
On vous rappelle, comme d'habitude, que l'AF1 sur Internet, c'est sûr.
FanF1.com, bien sûr.
Sur Internet.
L'AF1 sur Internet, c'est sur Internet. Waouh.
Attends, j'en ai une autre pour le
Parce
SAV.
Que le SAV de l'AF1, c'est...
La famille, gratuit, en
plus. Le SAV de l'AF1.
Sur Internet, dans vos oreilles.
C'est Captain Obvious Ben, ce soir.
Voilà.
Voilà, on arrive à la fin de l'émission. Il va pas y avoir beaucoup de montage, je pense, cette semaine.
Non, voire aucun.
Vu la durée, je pense qu'on va juste couper les blancs, on va rajouter des jingles, et on va laisser comme ça.
On va quand même nettoyer un
oui,
peu la
piche. Oui, oui, bien sûr.
Surtout quand tu tapes sur le clavier comme un barbare. C'est la dernière fois, je monte, il faut que je vous dise, je monte l'émission, et là, je me dis, tiens, Shinji est en train d'écrire sur son clavier. Et je fais, à une époque, on se fait de ma gueule, parce que j'ai tapé sur mon clavier comme un barbare.
Mais c'est Shinji, pas ça, c'est que le micro, il est juste au-dessus du clavier. Mais juste au-dessus.
Ouais, poète. Ouais. Non, c'est une émission qui a un avant-goût de Director's Cut.
Ouais, pas mal, ouais.
Enfin, de Director's ouais. Uncut.
Oui.
Ah, sinon, j'ai récupéré une version Driven.
Ouh.
Je pense que je vais me le faire prochainement.
Les commentaires audio du SAV.
Avec mes mots.
Les commentaires
mes
audio,
mots,
ouais.
Parle avec le nez.
Il y a que Shinji, hein, qui trouve que c'est d'accord avec le nez, hein.
Donc, je vous ferai un débrief la prochaine fois que je viens.
Monsieur, rappelons que sur le site www.savf1.fr, vous pourrez retrouver les commentaires de Driven. Voilà, en commentaire audio. On essaie toujours de vous en faire un autre. Là, ça va être difficile
oui.
de vous en faire un autre. Mais tiens, par exemple, si vous avez des amis, que vous avez envie de refaire le commentaire audio de Driven, n'hésitez pas. Et puis, partagez
ah oui,
le fichier.
Ah oui, nous, on rediffusera, ce sera avec plaisir.
Nous, on est ouais. clients, quoi.
Ouais, puis en 2014, vous pourrez ouais. faire Rush.
Voilà un truc où on avait discuté. Le problème, c'est qu'il faut trouver le bon film. Parce que Driven, ce qui est bien, c'est que c'est drôle à commenter. Tu comprends? Parce que c'est pas un super bon film, parce que...
C'est vrai. Le Mans, c'est bien parce que tu peux parler sans perturber la bande
oui.
son.
Oui, mais c'est pas drôle parce que...
Puisqu'il
mais c'est pas drôle parce que le film est pas drôle et puis qu'il est super bien. Tu comprends?
Ouais. Il y a Kill Bill, c'est pas mal, mais c'est pas de la F1. Il y a des trucs à dire.
Il y a Michel Vaillant,
c'est
non?
C'est celui qui a sans doute le plus de potentiel.
Ouais. Ah, il y a Ricky Bobby.
Si, ouais.
Mais ça, Ricky Bobby, ça suffit à lui tout seul. Faut bien dire
Ricky Bobby.
Ceux qui ont vu Ricky enfin. Bobby, ils savent de quoi on parle. Ricky Bobby, ils savent parier. Parce que Ricky Bobby, son ennemi, c'est un Français.
Oui.
L'ennemi de Ricky Bobby.
Sponsorisé par Perrier. Et bien évidemment, comme il est français, voilà. Il est homosexuel.
Ouais.
Et il a le droit de se marier. Ah, Sacha Baron Cohen. On vous souhaite une bonne semaine, hein. Elle va être agitée normalement à partir de jeudi. Oui. On ne sait pas ce qui va se passer jeudi, mais il va se passer un truc.
Oui, alors promis, la semaine prochaine,
oui.
on parle
oui,
de
oui.
BIP. On parle de Mercedes, de BIP, de la FIA, on parle de...
Là, vous avez fait la SAV, on n'en a pas parlé parce qu'on sait très bien que la semaine prochaine, alors là, on va en parler en long et en large. Il n'y a pas de souci.
La semaine prochaine, c'est l'émission 100%
peut-être.
Cette semaine, c'est 0% BIP. La semaine prochaine, c'est 100% BIP.
Et on vous rappelle, hein, ce week-end, il y a les 24 humains, ça fait toujours plaisir. Avec Songs, c'est 18 pilotes oui. de F1, comme Kitfell.
Non, il a jamais été pilote de F1, ça a jamais été prouvé.
Mm-hmm.
Je veux des documents.
Il y a des preuves.
Si la NSA nous écoute, je veux les factures téléphones de Nick Kitfell pour avoir les preuves. Celle de Nick Loda, j'ai les preuves que c'est un pilote de Formule 1. Quand on le voit à la télé, on a l'attitude. Enfin voilà, c'est écrit sur oui. son visage.
Allez, on vous souhaite une très bonne semaine. Et un dernier mot, les gars.
Fanfreluche.
Ben, un dernier mot.
Butterfly.
Oh, bon, monsieur tape dans le mot international.
Ouais, mais voilà, il y a une petite référence à une actu F1 très people.
le tatouage de Lewis ou de je sais pas qui c'est ça.
Non, c'est le nom d'un album de Maria Carey qui a chanté au mariage de Tamara Eichel.
Ah ouais, oula. Oh là là.
Ouais, je fais dans le...
Entre le mec qui reçoit le nom du patelin, où est né Christian Horner et celui qui a le nom de l'album qui a été passé à la fille.
Ah, mais c'est un truc de...
Eh bien, moi, ça sera PlayStation 4. Allez.
Je dis à chaque fois, il me demande de dire un mot.
Non, mais c'est tout collé. Bon, alors, PlayStation, voilà, c'est un seul mot.
La console préférée de 85% des Américains.
Oui, c'est ça, je pense qu'ils doivent le plus s'inquiéter. Allez, ciao à tous.
Allez, salut.
Ciao.
And it's lights out.